Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est 4h57. Bon réveil. Bienvenue sur Europe 1. Le 5-7 démarre. Tout le monde est là en forme.
En pleine roche.
Oui. Paul Lassen, salut à tous les deux.
Bonjour.
Vous savez quoi?
Ouais, c'est vendredi.
C'est vendredi. Vendredi.
Est-ce qu'on va faire toutes les semaines?
Oui, on va la faire toutes les semaines. C'est parti, vendredi 9 octobre. Et c'est l'image de la nuit.
Ma petite maman. Ma petite maman. Je veux que ça, l'emmener, la prendre et l'emmener. Et m'occuper d'elle.
L'émotion du fils de Sophie Pétronin sur TV5 Monde hier soir. Il a retrouvé sa mère il y a quelques heures, libérée. Après près de 4 ans de détention, elle était la dernière otage française dans le monde. Sophie Pétronin, 75 ans. Elle sera accueillie aujourd'hui sur le sol français par Emmanuel Macron. On va y revenir dès le début du journal de 5 heures dans un instant. Paul, c'est une autre forme de crise sanitaire. On manque de donneurs de sang.
Oui, absolument. Et dans le sud-ouest, à Carcassonne, on a eu une idée un peu ingénieuse pour intéresser les gens à cette cause. Leur donner de la nourriture après le don du sang. Je vous dirai dans une vingtaine de minutes ce que c'est.
De la bonne bouffe.
De la très bonne bouffe.
Donc a priori, c'est pas que des viennoiseries.
Ah non, c'est après, si c'est le matin, c'est un peu plus compliqué, mais ça donne envie.
D'accord. Allez, la suite dans 20 minutes dans le pressing du jour. Omblin, on commence le week-end en musique.
Oui, un artiste engagé, témoin de son temps et avec une œuvre qui a marqué toute une génération et les suivantes. Hymne absolu à la paix et à l'amour, mais Imagine de John Lennon n'est pas seulement une œuvre militante. You may say.
Imagine dans la partition d'Omblin tout à l'heure à 6h10. À tout à l'heure,
Omblin. Il aurait fêté ses 80 ans aujourd'hui.
Ah, bah
à tout
voilà,
à l'heure.
C'est l'occasion. Quatre villes de plus en alerte maximale aujourd'hui. Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille face au Covid. Toulouse et Montpellier sont en sursis. La situation continue de se dégrader. Conférence de presse du ministre de la Santé hier soir. Et en Ile-de-France, le plan blanc est activé dans les hôpitaux. Exactement comme au mois de mars. Il n'y a plus d'autre solution que de repousser certaines opérations pour libérer des lits. Mon invité à 5h40 est en première ligne. Le professeur Frédéric Adnet dirige les urgences de l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis. On reparle du glyphosate aussi ce matin, ce pesticide considéré comme cancérogène. L'Agence de sécurité sanitaire publie de nouvelles restrictions à son utilisation partout où des solutions non chimiques sont possibles. La vigne, les arbres fruitiers, les champs de céréales. Quel impact pour les agriculteurs? À 6h40, je recevrai le porte-parole de la Confédération paysanne. Et puis la parole aux dyslexiques ce matin. Une journée mondiale, une journée nationale plutôt, leur est consacrée demain. Et c'est bien un dyslexique inattendu qui est avec nous tout à l'heure à 6h15, puisque ce handicap dont il souffre parfois ne l'a pas empêché de mener une longue carrière politique. Il a même dirigé le Parti Socialiste, c'est dire. Il sera avec nous tout à l'heure à 6h15. Voilà pour le programme. D'abord la météo. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Sébastien et bonjour à tous. Oui, la pluie est arrivée, elle est arrivée par la Manche et elle traverse la moitié nord de la France tranquillement, pas à grande vitesse, au point que les régions du sud seront épargnées, comme le sud-ouest, le massif central, la région Rhône-Alpes et bien sûr le bassin méditerranéen, épargnées de la pluie. Température maximale entre 18 et 20 degrés. C'est encore agréable, hein, mais ça ne va pas durer.
À tout à l'heure Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, bon réveil, j'accueille François Geffrier pour le journal. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h sur Europe 1.
Laissez-moi passer, maman.
Les retrouvailles entre un fils et sa mère, presque 4 ans après, la Française Sophie Pétronin est enfin libre, elle qui était otage depuis fin 2016 au Mali. 4 nouvelles métropoles en alerte maximale, 2 autres en sursis qui risquent de basculer d'ici lundi. Le point complet sur la nouvelle carte de France de la vigilance Covid et ses conséquences concrètes. Puis, un nouveau titre de Johnny Hallyday, ça s'appelle « Deux sortes d'hommes ». On écoutera cet inédit à la fin du journal.
À suivre votre journal des sports et notre pressing du matin. Et puis les doigts dans l'assiette avec nos agriculteurs, nos artisans. Nous serons à Rungis ce matin chez notre grossiste en fruits et légumes. Bienvenue, 5h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Elle aura passé près de 4 ans comme otage, 1384 jours sans voir sa famille, qui a parfois perdu patience ou perdu espoir. Voilà Sophie Pétronin libérée. L'annonce pressentie ces derniers jours a été faite hier soir. La Française, qui était retenue au Mali, est donc arrivée peu après minuit à l'aéroport de Bamako où l'attendait son fils. Vous nous racontez, Mathieu Bock, ces retrouvailles très émouvantes.
Oui, écoutez ce cri d'abord.
Maman ! Maman !
C'est celui de Sébastien, le fils de Sophie Petronin, au moment où il voit sa mère pour la première fois depuis 4 ans lorsqu'elle descend de l'avion. À peine l'appareil blanc de l'armée de l'air malienne immobilisé qu'il tente de se frayer un chemin entre les officiels et les soldats.
Laissez-moi passer ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman !
Il la prend alors dans ses bras et l'extirpe de la foule pour la reposer quelques mètres plus loin, au calme. Le fils retrouve alors sa mère, qui apparaît plutôt en bonne forme, un peu voûtée, un voile blanc sur les cheveux et un masque Covid sous le menton. Et de sa petite voix, elle lui raconte que même s'ils l'ont maintenu pendant 3 ans et 9 mois et demi, il l'accompagnait dans ses pensées.
«
Tu étais là en me disant « tiens bon ». » Puis il monte dans les 4x4 de l'ambassade de France et quitte l'aéroport à toute vitesse en direction du palais présidentiel pour une cérémonie officielle.
Le récit de Mathieu Bock pour Europe 1. Emmanuel Macron qui dit son immense soulagement et remercie le Mali accueillera Sophie Petronin à son arrivée en France prévue dans la journée. C'est notre grand titre ce matin. Les semaines passent et davantage de grandes villes françaises basculent en rouge écarlate, la couleur de la zone d'alerte maximale. Lille, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne verront les restrictions s'appliquer dès samedi. La fermeture des bars le soir à 22h notamment.
Deux autres métropoles où les indicateurs épidémiques ne sont pas bons, Toulouse et Montpellier, sont en quelque sorte en sursis. Le gouvernement se donne jusqu'à lundi pour prendre une décision. Alors comment éviter de basculer du mauvais côté? Les Toulousains, rencontrés par Benjamin Péter, semblent plutôt résignés.
Les gens ne sont pas raisonnables. Vous prenez le métro, les gens ont le masque en dessous le nez, ils prennent pas conscience de toute façon.
Pour Edith, ça ne fait pas de doute. Ce sursis sera de courte durée. Elle qui travaille à l'hôpital aurait préféré que Toulouse passe en alerte maximale dès aujourd'hui.
C'est logique. On ne passe pas en maximale, mais par rapport à Paris, ça serait judicieux de partir en maximale, déjà d'avoir des restrictions au niveau des cafés, parce qu'on s'aperçoit que ça ne le fait pas encore. On va voir ce qui va se passer dans les hôpitaux.
C'est quelques jours de gagner, pas de quoi satisfaire non plus les restaurateurs. Benjamin Serra, qui tient plusieurs établissements, ne supporte plus qu'on désigne sa profession comme responsable de la deuxième vague.
On est en sursis une nouvelle fois. On nous a dit peut-être cette fois-ci, ça sera sûrement la prochaine fois. Ce manque de visibilité pour nous, il est juste pas possible. Échapper à l'alerte maximale, c'est toujours mieux que d'y être dedans, mais aujourd'hui, le protocole qui est en place est déjà très contraignant. On a eu une grosse perte d'activité, de l'ordre de 30%. On sacrifie politiquement toute une profession, et quand on lève la tête, on voit qu'il y a beaucoup de bruit dans les appartements.
Et ils manifesteront vers 10h tout à l'heure aux abords de la préfecture, alors que Jean Castex et trois autres ténors du gouvernement y sont attendus. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Côté économique, le ministre Bruno Le Maire a annoncé hier soir l'élargissement du fonds de solidarité. 31 professions supplémentaires pourront bénéficier de ce soutien jusqu'à 10 000 euros par mois. Les loueurs de voitures, les fleuristes et les graphistes, entre autres.
Il est 5h05 sur Europe 1. Attendent dans la vallée de la Roya. L'électricité est maintenant en partie rétablie. La ville est également ravitaillée en hélicoptère, mais l'eau courante n'est toujours pas là.
L'eau potable est livrée, mais pour le reste, chacun se débrouille comme il peut. On tente notamment de capter l'eau des sources de la vallée. Reportage de Jean-Jacques Herry.
Pour atteindre la source Sainte-Catherine, il faut grimper un peu et marcher 400 mètres à l'écart du village. Inès nous sert de guide.
La Sainte-Catherine, c'est notre salut.
Deux tuyaux ont été raccordés à ce qui n'était auparavant qu'une fontaine. Le jaune remplit les camions-citernes des pompiers qui font des allers-retours pour livrer l'eau à l'hôpital. Le tuyau noir, lui, n'est pas encore en service. Le but, c'est de relier le réservoir d'eau, explique Thibault Lejean, le plombier, croisé un peu plus bas.
On a un bassin tout en haut du village qui alimente tout le village. Mais le CHU a aussi un tuyau qui part de ce bassin pour alimenter que le CHU. Donc notre but, c'est de remplir le bassin pour que le CHU puisse avoir l'eau au plus tôt.
L'hôpital est une priorité ici, mais malheureusement, dans une des ruelles, le tuyau arrête brutalement de serpenter.
C'est parce qu'on n'a pas assez de longueur pour continuer, en fait. Il nous manque du matériel, on l'attend.
Arnaud Robigny, ingénieur, le confirme. Il manque 500 mètres de canalisation qui doivent être livrés par les hélicoptères militaires.
On a besoin de beaucoup de matériel et c'est vrai que c'est très compliqué pour le faire venir. Donc c'est pas évident. Là, on est sur un peu de la médecine de guerre avec les tuyaux. C'est du système D. Hein.
Les tuyaux sont espérés ici dans la matinée. L'eau courante devrait être rétablie à l'hôpital au mieux dans l'après-midi. Pour les particuliers, il faudra sans doute encore patienter et continuer d'utiliser les citernes placées dans les rues pour se ravitailler. Tente Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Et on va terminer ce journal en musique avec, comme promis, un titre inédit de Johnny Hallyday, qui nous a quittés il y a bientôt 3 ans, mais dont on va quand même entendre la voix.
Oui, ce morceau s'appelle « Deux sortes d'hommes », une chanson blues qui aurait dû faire partie de l'album « Rester vivant », sorti en 2014. Explication de cette sortie en décalé avec Bertrand Lamblot, qui était le directeur artistique de Johnny à l'époque.
On a enregistré donc 14 chansons à l'époque pour ce disque, qui était un nombre assez conséquent pour Johnny, qui avait plutôt tendance à en enregistrer 10 ou 11 de ce qu'il fallait pour faire un disque. Donc on s'est retrouvé avec plus de chansons que ce qu'on ne pouvait artistiquement mettre sur un disque. Donc on a fait des choix à ce moment précis.
Il faut les voir, un éclat dans l'œil, et puis se taire un peu à gare.
Finalement, sur l'album Rester vivant, il y a un blues qui s'appelle « Je t'ai même pas dit merci », sachant que Deux sortes d'hommes est aussi un blues. Donc on a eu un choix léonin à faire entre deux blues.
Et qui ressort un peu plus fou, plus riche sûrement, mais pas vivant.
Le contexte du coffret, c'est de raconter le rêve américain de Johnny Hallyday avec des choses qui ont vraiment été faites là-bas, soit filmées, soit enregistrées, ce qui est le cas de cette chanson, puisque cet album Rester vivant a été enregistré à Los Angeles. On est dans du blues, qui est donc une des formes de musique américaine que Johnny appréciait particulièrement. C'est surtout ça que je trouve très 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 joli, c'est pas simplement de sortir un inédit comme ça dans le vide.
Il y a deux sortes d'hommes.
Deux sortes d'hommes, signé Johnny Hallyday.
Un nouveau Johnny pour l'anniversaire de François Geffrier ce matin. Joyeux anniversaire.
C'est gentil, merci Johnny.
5h08.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une de votre journal des sports, on attendait à l'instant Johnny Hallyday, parlons d'un certain Diego, libre dans sa tête.
Oui,
lui aussi.
Libre dans sa tête et qui pratique un tennis décomplexé, c'est Diego Schwartzmann, argentin, 28 ans, 14e mondial. Son ambition du jour, éliminer Rafael Nadal de Roland-Garros, rien que ça. Nadal-Schwartzmann, c'est l'affiche de la première demi-finale, messieurs, porte d'Auteuil. Et là vous vous dites, Nadal va l'emporter, facile encore. Possible, mais pas sûr, parce que figurez-vous que l'Argentin a battu l'Espagnol il y a 3 semaines sur terre battue au tournoi de Rome. Nadal était alors, il faut le dire, en pleine phase de reprise après le confinement. Nadal-Schwartzmann, premiers échanges juste avant 15h, puis seconde demi-finale dans la foulée entre Novak Djokovic et le grec Stefanos Tsitsipas.
Côté dames, on connaît l'affiche de la finale.
Et jeunesse se place, la polonaise Swiatek, 19 ans, affronte l'américaine Kenin de 2 ans, son aînée. Le match, ce sera demain. Des joueuses peu connue du grand public, même si Kenin, 6e mondial, a remporté le dernier Open d'Australie. L'ancienne championne française Amélie Mauresmo le reconnaît, le tennis féminin mondial est chamboulé en ce moment.
Aujourd'hui, il n'y a pas de domination, comme ça a pu être le cas par le passé et comme on le voit chez les hommes. Donc c'est vrai que pour le grand public, c'est difficile de s'y retrouver, c'est difficile de connaître les joueuses, c'est difficile de se prendre au jeu peut-être. C'est plus difficile à lire, bien sûr, pour le grand public. Là, c'est vraiment des nouveaux noms. Quasiment à chaque fois, donc c'est vrai que c'est compliqué.
Amélie Mauresmo, micro de Corinne Boulou, Swiatek, Kenin, finale dame demain après-midi. Et puis notez, en tennis fauteuil, pas de finale pour la paire française Stéphane Houdet, Nicolas Pfeiffer, numéro 1 mondiaux, battu en demi-finale hier malgré 6 balles de match.
Le foot est la fin d'un long tunnel pour Paul Pogba.
16 mois d'absence en équipe de France entre blessures et Covid-19, l'attente a pris fin avant-hier soir contre l'Ukraine, enfin.
Très dur après une longue blessure à la cheville. Cette blessure a duré comme 8 mois, 9 mois, on va dire. Donc revenir déjà en sélection après 16 mois, c'était pas facile. Puis voilà, je suis très très heureux d'être là. Je prends vraiment du plaisir de retrouver tout le monde. Et voilà, je suis juste un homme heureux.
Et dimanche, un France-Portugal au Stade de France en Ligue des Nations. Les Bleus et l'équipe de France Espoir poursuivent leur bonne marche en qualification pour l'Euro 2021. Ils ont battu hier soir le Liechtenstein, 5-0, c'était à Strasbourg. Et ils sont deuxièmes de leur groupe de qualification.
Le chiffre du jour.
2 victoires sur le Tour d'Italie pour le cycliste picard Arnaud Démare, le champion de France victorieux au sprint hier. De la 6e étape du Giro qui arrivait à Matera dans le sud du pays.
J'avais dit si je gagne ma première, après voilà, je serais libéré. Et là pareil, on l'a tenté alors qu'on n'était vraiment pas sûr du sprint. Et voilà les gars, on fait encore du super boulot pour se placer. Et là, génial.
Et côté classement général, le portugais Joao Almeida est toujours premier porteur du maillot rose.
Toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. À tout à l'heure pour La France Bouge. Il est 5h11.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Les courses et le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Et mon pari gagnant sera le 403 Fedo Seven. Ayant déjà engrangé plus de 220 000 euros de gains, ce trotteur estimé et longtemps ménagé est à l'aube d'un très grand meeting d'hiver. En plein épanouissement et désormais proche de son meilleur niveau, il fait face ce soir à un objectif qu'il ne devrait pas laisser échapper. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1, dans la quatrième course, le numéro 3, Fedo Seven.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet. À tout à l'heure.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h14 sur Europe 1. Près de 4 années passées aux mains des djihadistes, Sophie Petronin est libre. La Française a rejoint la capitale du Mali, Bamako, hier soir et retrouvé son fils. Le président Emmanuel Macron l'accueillera tout à l'heure à son arrivée en France. 18 000 nouvelles contaminations recensées en 24 heures. Un taux de positivité des tests désormais à 9,8%. Voilà les derniers chiffres de l'épidémie de Covid. Les métropoles de Lille, Grenoble, Saint-Etienne et Lyon passent en zone d'alerte maximale. Et puis Donald Trump envisage de reprendre ses activités publiques dès demain, selon son médecin, le président américain, qui évoque déjà la possibilité de tenir un meeting en Floride.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et avec Paul Lassen. D'abord, on jette un œil aux unes de vos journaux ce matin avec un mot un peu partout ce matin. Alerte, alerte maximale, donc notamment à Lyon, à la une du Progrès, le même titre à Lille, en première page de La Voix du Nord. Alerte, là aussi, mais renforcée à Clermont-Ferrand dans la montagne. Montpellier et Toulouse, elles sont en sursis. C'est le titre de Midi Libre. Une décision sera prise lundi. Le Figaro, lui, s'intéresse à l'impact économique. Ce que la crise sanitaire a déjà coûté à la France. Et aujourd'hui en France, un autre geste barrière à ne pas négliger. Ouvrir ses fenêtres, aérer chez soi, pourrait devenir, comme le masque, une arme anti-Covid. La sécurité est aussi à la une. La Dépêche du Midi qui annonce la visite de 4 ministres à Toulouse. Castex, Darmanin, Dupond-Moretti et Blanquer. Et puis là aussi, ils sont 4. 4 à la une de l'équipe. Les 4 demi-finalistes de Roland-Garros avec une statue à déboulonner. C'est le titre, celle du maître des lieux, Raphaël Nadal. Avec 3 prétendants, Schwartzmann, Tsitsipas, Djokovic. Et voici maintenant les 3 histoires que nous avons repérées en ce vendredi matin. Omblin, on commence avec vous et donc ce procès assez hors norme.
Ouais, c'est-à-dire dans Libération ce matin. Alors c'est d'abord l'histoire d'une amitié de 60 ans. Nous sommes le 3 janvier 2015 dans une bourgade d'une région rurale située entre le Luxembourg et les Ardennes belges. Clara, 84 ans, autoritaire, se rend comme tous les jours chez son amie, la guillerette Suzanne, 93 ans, deux vieilles dames isolées qui ont uni leur existence. Clara fait les courses, la vaisselle, trie le courrier et ce matin là, Clara part de la maison de Suzanne à 10h13. Le corps sans vie de Suzanne est retrouvé 4 heures plus tard sur le carrelage de sa cuisine jaune. L'urgentiste et les autres personnes dépêchées sur place affirment qu'elle est tombée en essayant d'attraper un pot, un accident. Mais lorsque Suzanne se retrouve sur la table des pompes funèbres, eh bien on remarque une énorme balafre sur le cou. Elle a en fait été tuée en recevant des coups de peau sur le crâne et coups de couteau. Un crime sans trace, sans larcin, sans effraction. Les maigres indices disséminés comme des petits cailloux mènent à son amie la plus proche, Clara. Quand je suis partie, elle était bien vivante, dit-elle. Et après, eh bien, elle ne sait plus. En fait, elle ne se souvient plus de grand-chose d'ailleurs, Clara. Ce sont donc les témoins, avec les témoins qui reconstituaient cette matinée du 3 janvier 2015. Et les commérages vont bon train. Clara faisait surtout la chef. Elle contrôlait, elle isolait Suzanne. Est-ce que finalement, ce ne serait pas une histoire de sous ? Suzanne aurait-elle décidé de changer son testament et de déshériter Clara, qui pourtant n'était pas vraiment dans le besoin ? Donc avait-elle vraiment de cet argent ? Bref, un crime sans éléments matériels, sans empreinte. Le mystère de la cuisine jaune. Verdict aujourd'hui, Suzanne risque quand même 30 ans de prison. Un roman noir dans Libération.
Ouais, le mystère de la cuisine jaune, j'aime bien le titre.
Ouais, c'est dans Libé. Ouais,
89 ans. Bon, je ne sais pas à quoi elle pourra être éventuellement condamnée. C'est dur comme histoire.
C'est difficile.
Paul, c'est aussi un impact de la crise sanitaire. Les dons de sang sont en recul, avec des alertes qui sont régulièrement lancées un peu partout en France.
Oui, à la fin du mois de septembre, l'EFS, l'établissement français du sang, lançait un cri d'alerte national, car les stocks de sang commençaient à manquer, vous l'avez dit, crise du Covid oblige. Par exemple, à Carcassonne, La pénurie de sang était si forte que les niveaux n'avaient jamais été aussi bas depuis plus de 10 ans. Alors, pour réalimenter les réserves, la dépêche du Midi nous parle d'une opération lancée par l'établissement français du sang de Carcassonne pour inciter les locaux à venir donner leur sang. Pour chaque don de sang fait, est offert un cassoulet.
Ah,
oui,
ah,
un cassoulet, un plat typique de la région, s'il en est. Depuis mercredi et jusqu'à demain soir, des chefs et des cuisiniers se succèdent dans les établissements de dons pour servir leur propre cassoulet comme collation à ceux qui viennent donner leur sang. On y trouvera des chefs assez connus de la région, Pierre Messa, Frédéric Beck ou encore Jérôme Rion, tous originaires de Carcassonne.
En plus, c'est des bons cassoulets.
C'est pas des cassoulets en boîte. Notre rôle en tant qu'association est d'essayer autant que faire se peut d'être utile aux autres, précise le président des Compagnons de Prosper Montagnier, un club de gastronomes et de chefs qui a contacté l'établissement français du sang pour participer à cette collecte. On le rappelle, donner son sang, c'est important, surtout en cette période de crise sanitaire. Et si vous êtes à Carcassonne, vous avez jusqu'à demain soir pour faire une bonne action et profiter d'un bon cassoulet bien chaud après.
Mais en plus, c'est important de bien manger, surtout après un don du sang, pour pas tomber dans les pommes.
Pas de viennoiserie, mais un bon cassoulet.
Un bon cassoulet, là, on s'attire. On est bien.
On se rattrape bien.
Moi, je vous emmène dans un lieu chargé d'histoire.
Avec le temps.
Alors nous sommes dans le Lot, à la frontière avec la Dordogne. C'est là que Léo Ferré s'était installé dans les années 60. Château de Perdrigal à Saint-Clair, bâtisse médiévale du 14e siècle avec ses belles tourelles. Un château à vendre. Alors je vous fais la petite annonce. Charme de l'ancien, vastes espaces, 19 chambres, 17 salles de bain.
Il y a de quoi accueillir.
Il y a de la place. C'est là que Léo Ferré composait, écrivait. Il s'était installé notamment avec son chimpanzé, Pépé. Et c'est là qu'il rencontra sa future femme, Marie-Christine Diaz, avec laquelle ensuite il quittera la région. On apprend sur le site du Figaro que le château a ensuite été laissé à l'abandon pendant des années. Et que c'est un homme d'affaires franco-américain qu'il a repris, qu'il a rénové. Et désormais, alors il y a cours de tennis et piscine, donc on est vraiment bien. Il y a même des vignes qui produisent du merlot. Bon, sur le papier, ça a l'air pas mal, mais ça fait 2 ans que le propriétaire cherche à le vendre et qu'il ne trouve pas preneur. Du coup, le domaine va être mis aux enchères. Ce sera mardi prochain, le 13 octobre. Vente en ligne pendant 72 heures. Prix de départ, selon le Parisien, on ne sait jamais si vous voulez vous positionner.
Allons-y.
Autour de 4,5 millions d'euros.
Ah ben j'y vais.
Voilà. Ouais. Vous jouez.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme.
Valérie Rideau sur le pressing de ce vendredi.
Merci.
Merci à tous les deux. 5h21. Et c'est l'heure des doigts dans l'assiette. Nous allons à Rungis ce matin. Bonjour Boris Richeux.
Bonjour.
Vous êtes notre grossiste en fruits et légumes. On vous retrouve dans un instant. À tout de suite.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Il est 5h23 sur Europe 1 et c'est les doigts dans l'assiette, notre rendez-vous avec nos agriculteurs, nos producteurs, nos artisans. Nous sommes donc à Rungis ce matin, le plus grand marché du monde, chez notre grossiste en fruits et légumes, Boris Richeux. Comment ça va ce vendredi matin ?
Mais très bien, c'est une belle journée pour nous le vendredi. On a du monde, de l'activité, donc c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec nos clients et prévoir la nourriture des Français pour ce week-end.
Bah oui, c'est ça, tout le monde se fournit pour le week-end là, à cette heure-là.
C'est ça, c'est la grosse période et puis tout le monde sera prêt sur ses marchés vendredi, samedi, dimanche.
Le week-end se prépare, donc vous avez quoi de beau en ce moment sur vos étals ?
Alors là, on commence la pleine saison des agrumes d'Europe avec les pamplemousses, les oranges, les clémentines et les citrons. Donc les étalages sont très colorés. Et ça nous fait plaisir parce qu'on apporte de la vitamine C dans les assiettes des Français.
Alors ça fait du bien un peu de vitamine. Qu'est-ce qu'on choisit déjà si on parle un peu d'origine, ils viennent d'où ces agrumes ?
Alors les agrumes chez nous, ils viennent tous d'Espagne. Mais en vérité, tous les agrumes, à l'exception du citron, ils viennent tous d'arbres qui étaient en Chine à l'origine. Et tout ça, c'est des variétés qui ont été hybridées au cours des siècles pour pouvoir avoir ces variétés européennes aujourd'hui ou américaines pour le pamplemousse.
On peut acheter sans crainte l'Espagne ou est-ce qu'il faut privilégier plutôt du bio ?
Alors, sur la production d'agrumes espagnols, on peut acheter sans crainte, surtout sur des maisons sérieuses comme chez nous. Comme je vous l'ai déjà dit à vous et à nos auditeurs, je me balade, je passe mon temps en production, je vérifie ce qui s'y passe. Aujourd'hui, on a une culture de l'agrume en Europe qui est très encadrée et sur laquelle le consommateur peut avoir confiance.
Alors, comment on choisit ces agrumes ? Je ne sais pas, vous êtes plutôt pamplemousse, orange ?
Alors moi, je suis un peu tout. Je les aime tous. Après, on va se dire, on va faire un petit focus sur la clémentine. Déjà, pour expliquer à nos auditeurs que le mot clémentine vient d'un prêtre, le père Clément, qui était le chef arboriculteur d'un orphelinat en Algérie. Et donc, c'est lui qui nous a donné ce joli nom. Ensuite, on va les choisir avec une belle couleur. Parce que si elles sont bien orangées, c'est qu'ils ont eu ce qu'il fallait en termes de froid la nuit pour pouvoir mûrir au mieux. Et enfin, on va privilégier plutôt des grosses peaux. Ça, en plus, ça s'épluche plus facilement et généralement, le fruit est plus charnu et plus goûtu à l'intérieur.
Et donc, la clémentine, ça commence déjà là. Ça y est, c'est parti.
Ça y est, c'est parti. Ça fait quelques jours qu'on a les vrais arrivages. Quand je vous dis vrais arrivages, c'est qu'on a des camions entiers qui arrivent et qui répondent aux normes qualité et gustatives qu'on souhaite avoir dans nos magasins.
Qu'est-ce qui se vend le plus là ?
Là, c'est la clémentine à feuilles en ce moment. On a commencé la variété que les Français préfèrent, c'est l'euro nul. Et elle est vraiment bonne cette année. Elle a cette pointe d'acidité qui, moi, personnellement, me fait bondir en l'air quand je les goûte.
Voilà, un peu de vitamine C, un peu d'agrumes pour se redonner un peu d'énergie là avec ce temps qui commence à être sacrément gris et pluvieux ces derniers jours. Merci Boris Richeux. Bon courage pour ce vendredi à Rungis et bon week-end à vous.
Merci Sébastien.
À très vite dans les doigts dans l'assiette. Laurent Cabrol, il fait malgré tout encore assez doux ce matin.
Bah écoutez, oui. Nous avons du 17 à Bayonne, 16 à Nantes, 15 à Nancy, 14 à Rennes, 13 à Bordeaux, 11 à Lyon. Ce sont des températures, ma foi, qui sont tout à fait de saison, et même plus douces que la saison. Dans l'après-midi, entre 16 et 18 sur la moitié nord, et entre 20 et 23 sur la moitié sud. Vous voyez que ce ne sera pas trop mal. Même Paris, 17 degrés. Alors, en ce qui concerne la couleur du ciel, c'est moins souriant, parce que nous avons une zone de pluie qui est arrivée. Oh, on ne va pas s'en plaindre, hein. Cette zone de pluie va concerner ce matin des régions comme les Pays de la Loire, la Seine-Maritime, la Haute-Normandie, dont dans son ensemble, Île-de-France, Champagne-Ardenne et Morvan. Et dans l'après-midi, elle va joindre très vite même, avant midi, la Vendée, le Poitou-Charentes, le Berry et le Mâconnais. Voilà. Alors que dans les régions de la moitié sud, eh bien, on peut parler d'un temps clément avec des nuages, mais pas de pluie. Nous verrons cela tout à l'heure. Nous verrons aussi que le ciel sera voilé en Méditerranée sur la région Rhône-Alpes, mais l'impression de beau temps prévaudra.
Bon, on vous retrouve tout à l'heure avant 6h. A tout à l'heure, Laurent.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bon réveil, bienvenue sur Europe 1 tout de suite. C'est un nouveau journal avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Comme j'ai vu que c'était déjà le cas à Marseille et Paris et que nous on était mal au point dans la région, on a décidé d'anticiper le protocole. Je pense qu'on est dans les règles.
Lille passe à son tour en zone d'alerte maximale. Certains restaurateurs ont déjà mis en place les mesures sanitaires plus strictes, comme le cahier de rappel. Les communes sinistrées des Alpes-Maritimes pansent doucement leurs plaies, signe d'un retour à la vie, la réouverture des écoles. Nous irons à Roquebilière. Dans ce journal, une plainte contre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour prise illégale d'intérêt. C'est l'association Anticor qui vient de la déposer. Et puis Raphaël Nadal pourrait souffrir aujourd'hui en demi-finale à Roland-Garros. Il sera opposé à l'argentin prometteur Diego Schwartzmann.
La situation sanitaire s'aggrave et en Ile-de-France, c'est même une marée très forte qu'attendent les autorités. Signe inquiétant, comme au mois de mars, le plan blanc est activé pour repousser certaines interventions et libérer des lits dans les hôpitaux. Dans 10 minutes, j'appelle un médecin qui est en première ligne, le professeur Frédéric Adnet. Il dirige les urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et puis ce sera La France Bouge avec Jérôme Lacroix qui met en lumière chaque matin de belles initiatives en région. Bienvenue, 5h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et d'abord, cette nouvelle qu'on attendait depuis plusieurs jours, la libération de la dernière otage française dans le monde, Sophie Pétronin, après 4 ans de détention au Mali. Elle est arrivée hier soir à l'aéroport de Bamako. Emmanuel Macron viendra l'accueillir aujourd'hui à son retour en France.
L'autre grand titre, c'est le Covid après Paris et Marseille. 4 autres agglomérations basculent dans le rouge écarlate, l'alerte maximale. Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne.
Annonce d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Conséquence donc, la fermeture des bars et un protocole plus strict pour les restaurateurs dès demain matin. À Lille, comme l'a constaté Maximilien Carlier, certains ont choisi d'anticiper.
Messieurs, dames, je vous invite à noter votre nom, prénom et numéro de téléphone.
Jonathan, le patron du Fort de Mons, pointe du doigt la table haute à l'entrée du restaurant. Table avec gel hydroalcoolique, cahier, stylo. Jean-Pierre écrit ses coordonnées.
C'est une évolution dans les pratiques, mais en même temps, si je dois être informé d'un éventuel problème de santé, je serai content. Et comme j'ai pas trop de soucis de confidentialité sur ma présence ici, je suis pas du tout gêné.
Le secret de ce gérant, prendre les devants.
Comme j'ai vu que c'était déjà le cas à Marseille, pareil, et que nous on était mal au point dans la région, on a décidé d'anticiper le protocole.
Des tables de 6 maximum, espacées, limiter les déplacements, paiement à la table.
Tout est prêt pour bien faire les choses. On a mis aussi les affiches de la capacité du nombre de personnes à respecter à l'entrée du restaurant. Je pense qu'on est dans les règles.
Rester dans les clous surtout, pas d'erreur. Le plus dur peut-être pour les clients, ça sera...
Porter leur masque avant de passer au repas à table et seulement l'enlever quand ils boivent leur verre.
Mais pas le choix, il faudra l'appliquer également. Dès demain, ce gérant veut éviter à tout prix la fermeture administrative. Lui qui a déjà perdu 150 000 euros pendant le confinement. Mons-en Barœul, Maximilien Carlier, Europe 1.
Toulouse et Montpellier pourraient suivre le même chemin à l'issue du week-end. Et puis à une semaine des vacances de la Toussaint, Olivier Véran précise qu'il n'y aura pas d'interdiction de déplacement, mais il appelle à la vigilance, notamment lors des retrouvailles en famille.
Retour dans l'arrière-pays niçois à présent, où le bilan des intempéries est désormais de 6 morts. Le corps d'un pompier a été identifié. Une vingtaine d'autres personnes sont toujours recherchées. Les sinistrés tentent pour leur part de retrouver une vie plus ou moins normale.
Et ça passe par les écoles. Elles avaient toutes été fermées dans les Alpes-Maritimes. Il y a une semaine, en prévention de la tempête, à Roquebilière, l'un des villages les plus meurtris. Depuis hier, l'école primaire accueille à nouveau ses 145 élèves, rentrée très particulière à laquelle Johanna Chabas a pu assister.
Pour les enfants, c'est important de se dire que la vie reprend et qu'on va pouvoir à nouveau vivre normalement dans notre vallée.
Rouvrir son école au plus vite, c'était l'objectif de Fabienne, la directrice. L'établissement n'est pas endommagé, l'électricité est revenue, mais il manque encore l'eau potable. C'est la mairie qui distribue des bouteilles. À la récréation, les enfants jouent, se courent après, font tout comme avant, pour le plus grand plaisir de Tony, 7 ans et demi.
Ça fait bien de retrouver les copains. Quand t'étais à la maison, t'étais inquiet. Moi, j'ai pleuré quand j'étais à la maison parce que j'ai des copains qui ont été évacués. C'est pour ça que ça fait du bien de les revoir.
Au programme des révisions, mais surtout des discussions, les professeurs encouragent les élèves à évacuer leurs émotions après la catastrophe. Sandrine, maîtresse en CE1, CE2, leur a demandé de dessiner ce qu'ils ont vu.
La rivière, la route à côté qui est cassée et les voitures parties. Ça ressort sur tous les dessins. Mais bon, ça va, je suis agréablement surprise. Ils parlent beaucoup, donc je pense que ça va évacuer assez rapidement.
110 enfants sur 145 sont venus dès le premier jour. Les autres ne savaient pas que l'école était rouverte. Mais maintenant qu'Internet est rétabli, la direction va pouvoir prévenir toutes les familles. Roquebilière, Johanna Chabas, Europe 1.
Après des débats houleux, l'Assemblée a voté l'allongement du délai légal pour l'avortement de 12 à 14 semaines de grossesse. Et puis le Nobel de la paix sera attribué aujourd'hui à Oslo, parmi les favoris Greta Thunberg, Reporters sans frontières ou encore l'OMS.
5h35 sur Europe 1. Éric Dupond-Moretti est-il en conflit d'intérêts au ministère de la Justice? Question posée par les magistrats d'une centaine de tribunaux depuis plusieurs jours.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique demande des précisions au garde des Sceaux. Et dans le même temps, Guillaume Bier, une seconde plainte contre le ministre vient d'être déposée devant la Cour de justice de la République.
Effectivement, après celle d'un militant ancien élu de Grenoble, c'est au tour de l'association anticorruption Anticor d'attaquer le ministre de la Justice pour prise illégale d'intérêt à propos de l'enquête administrative qu'il a lancée contre 3 magistrats du parquet national financier. Car même si Éric Dupond-Moretti a retiré la plainte qu'il avait déposée avant d'être ministre, il est en position de conflit d'intérêt, estime l'avocat d'Anticor, Jérôme Carsanti.
Même un lien d'amitié, un lien moral est un intérêt. Et là, en l'espèce, c'est un intérêt pour lui direct, puisqu'il vient poursuivre une enquête qui a été, d'une certaine manière, classée sans suite. Et lui vient la poursuivre parce que lui, il a un intérêt direct, puisque c'est contre lui que les services d'enquête du parquet national financier avaient enquêté. Il n'aurait même pas dû recevoir le rapport. C'est-à-dire que là, il n'a pas compris qui il devenait.
C'est la commission des requêtes de la Cour de justice de la République qui donnera suite ou non à ces plaintes déposées contre un ministre esseulé qui s'est mis à dos en quelques semaines la grande majorité des magistrats.
Guillaume Bier.
À Roland-Garros, place aux demi-finales, messieurs, au programme aujourd'hui, notamment Djokovic face au grec Tsitsipas.
Mais d'abord Nadal face à la l'Argentin Diego Schwartzmann. Pour une fois, le numéro 2 mondial pourrait être mis en difficulté, Simon Rubin.
Quand Nadal joue à Roland-Garros, il part toujours large favori. Mais cet après-midi, face à l'Argentin Diego Schwartzmann, l'équilibre des forces semble plus équitablement réparti. Et pour une raison simple, le 19 septembre dernier, juste avant Roland-Garros, Schwartzmann avait battu Nadal en quart de finale du tournoi de Rome. Une défaite que l'Espagnol n'a pas digérée. Je ne vais pas vous mentir, il part avec un léger avantage, raconte Nadal, puisqu'il m'a battu à Rome. L'Espagnol, pas très à l'aise, ajoute « Je ne peux pas effacer cette défaite, c'est la réalité. À moi de trouver cette fois la meilleure manière de le battre dans un tournoi si spécial pour moi. » Nadal se méfie d'autant que le froid, l'humidité ambiante, cette terre battue lourde conviennent mieux au style de jeu de son adversaire argentin. De là à voir l'Espagnol tomber, peut-être pas, mais cet après-midi, Nadal pourrait enfin perdre un set dans le tournoi. C'est déjà ça.
Et puis l'affiche de la finale dames est plutôt inattendue. Ce sera l'américaine Sofia Kenin contre la polonaise Iga Świątek, 19 ans.
Un Roland-Garros décidément plein de surprises. On va y revenir avec Jérôme Lacroix dans le journal des sports complet tout à l'heure après le journal de 6h. C'était le journal d'Hélène Zellani. Il est 5h38. Place aux courses. Cyril Léger, quels sont vos pronostics pour le quintet du jour ?
C'est en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet. Parmi les 16 chevaux âgés de 7 à 10 ans, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection les numéros 15, Canular, et 16, Douceur du Chêne, idéalement engagés au plafond des gains et qui restent tous les deux sur des performances qui doivent leur permettre ici d'être très compétitifs pour la victoire. Ensuite, je vous conseille Diego Dugoutier, le numéro 1, souvent vu à son avantage cet été, quel que soit le parcours proposé, mais aussi le numéro 2 d'Orlando Duvivier, l'un des bons 7 ans évoluant dans le sud-ouest et pour lequel son habile entraîneur Julien Rivière n'hésite pas à effectuer un long déplacement jusqu'à Vincennes. Enfin, les numéros 7, Droit d'auteur, 6, Darwin Star, 14, Colorado Blue et 11, Digue d'Or compléteront ma sélection. Mon pronostic, 15, 16, As, 2, 7, 6, 14 et 11.
C'est noté Thierry Léger, on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Europe 1.
Il est 5h39, 4 villes de plus donc en alerte maximale, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille. Et la situation qui s'aggrave aussi en Île-de-France où le plan blanc est activé dans les hôpitaux exactement comme au mois de mars. Il faut repousser des opérations pour libérer des lits. Mon invité dans un instant est en première ligne. Le professeur Frédéric Adnet dirige les urgences de l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis. Je l'appelle dans une minute. À tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
J'accueille le premier invité de la matinale. Bonjour professeur Frédéric Adnet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous dirigez le service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Vous êtes aussi le directeur du SAMU dans ce département de la Seine-Saint-Denis qui a déjà été très affecté par la première vague de l'épidémie. Quelle est la situation de tension aujourd'hui dans vos services ?
Bien que ça ne ressemble pas du tout à la première vague, la situation est extrêmement inquiétante. Nous avons maintenant depuis quelques mois un flux constant de patients Covid qui arrivent aux urgences, qui appellent le SAMU, qui sont hospitalisés et les patients habituels qui viennent pour les autres pathologies, les autres spécialités.
Le plan blanc est activé niveau 2 dans les hôpitaux d'Île-de-France pour permettre des reports d'autres opérations. Ça va libérer des lits.
Nous, médecins, on veut accueillir tout le monde, on veut soigner tout le monde, les patients non-Covid et Covid. Mais la pression maintenant des patients Covid, qui est une pression continue, qui n'est pas une vague, mais qui est un flux continu de patients qui vient, qu'il faut hospitaliser parce que c'est des patients qui ont des pathologies urgentes, graves, comme des détresses respiratoires, et bien progressivement, ils prennent la place des patients non-Covid. Et on a déclenché le plan blanc niveau 2, ça veut dire qu'on ne peut plus gérer ces deux flux de patients. Il va falloir, entre guillemets, sacrifier un flux pour s'occuper des patients Covid. Et donc, on va commencer.
Et vous dites sacrifier, vous dites sacrifier. Ça veut dire que ça
oui,
met aussi en
complètement,
un risque des gens.
Sacrifier. Ça veut dire que nous, médecins, on va être obligés de ne plus s'occuper de ces patients-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces pathologies non urgentes, chroniques, on leur fait perdre des chances. L'exemple des cancers qu'on va diagnostiquer avec retard, des patients qu'on va transplanter avec retard, des patients insuffisants cardiaques qu'on ne va plus prendre en charge, et donc on va forcément gréver leur espérance de vie. On va le payer. On va le payer en termes de mortalité chez ces patients non-Covid, qu'on va être obligé de leur dire ne venez pas à l'hôpital, maintenant il va falloir malheureusement, qu'on s'occupe des patients Covid, ils vont prendre vos places.
Le plan blanc, c'est exactement ce qui avait été déclenché au mois de mars. Ça veut dire qu'on en est là, on est en train d'atteindre la même situation qu'on a déjà connue au mois de mars. C'est la deuxième vague, elle est là.
Je pense que malheureusement, ça va être pire avec moins de malades. Pourquoi ça va être pire ? Ben parce qu'on avait des soupapes de sécurité à la première vague. La première était qu'on pouvait transporter des malades en province qui n'étaient pas impactés par le Covid. Actuellement, on ne peut plus. Toute la France est impactée par le Covid. En première vague, on pouvait compter sur des renforts de soignants qui venaient de province. Souvenez-vous, cette fois-ci, ce n'est plus possible. Et on a aussi un personnel soignant qui est fatigué, qui est désabusé, qui est victime de lassitude et pour lequel on ne sent pas une motivation que l'on avait en première vague, parce qu'on avait une espèce d'adrénaline sur une maladie nouvelle avec un virus qu'on ne connaissait pas et tout le monde était face à ce virus. Actuellement, on sent quand même une vraie lassitude dans le personnel soignant. Donc, vous voyez,
mais ça veut dire que vos moyens n'ont pas été renforcés depuis le mois de mars. Vous n'avez pas plus de lits que vous n'en aviez au mois de mars.
Si on parle de tenue de protection, de respirateur, de matériel, on a tout ce qu'il faut. Là où on a un vrai problème et qui va être un vrai, vrai problème et qui va sûrement nous amener à une crise majeure, c'est qu'on n'a pas de personnel soignant en nombre suffisant pour armer tous ces lits de réanimation qu'on voudrait ouvrir. D'autre part, on n'a pas assez de lits tout court. Vous savez que l'hôpital public était dans une politique de diminution de lits, de diminution d'hôpitaux, et il n'y a pas eu de moratoire, on n'a pas inversé la vapeur. Alors je ne dis pas qu'en 3 mois, on aurait pu construire 10 hôpitaux, quoique les Chinois, en 10 jours, ont construit un hôpital de 1000 lits. Mais si vous voulez, on n'a pas senti quand même un effort de nos tutelles pour dire « bon, on arrête les bêtises ». Cette fois-ci, on rouvre des lits, on s'engage à arrêter les fermetures d'hôpitaux parce que dès le début, le Conseil scientifique avait dit « faites attention, cette épidémie, elle n'est pas finie, on va avoir encore des malades à hospitaliser ».
Ça veut dire que là, les vacances de la Toussaint qui arrivent, la consigne qui est donnée aux soignants, c'est de ne pas prendre de vacances. Vous aurez besoin de tout le monde ?
C'est la consigne qui a été donnée par notre directeur général. Je ne sais pas trop comment elle va être accueillie. Le plan blanc niveau 2 est déclenché, donc on peut demander au personnel de venir renforcer les services et les hôpitaux. Maintenant, il va falloir connaître comment cette mesure va être prise par le personnel soignant, qui est fatigué, qui est un peu désabusé. J'ai entendu que ça sera payé en heures supplémentaires majorées de 50%. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Je suis inquiet parce que le pire, ça serait qu'on soit un hôpital sans soignants, sans lits, et qu'on soit soumis à une pression de malades pour lesquels il faut absolument les prendre en charge parce qu'ils ne vont pas bien.
Dernière question, professeur Adnet. Quel est le message que vous voulez faire passer à tous ceux qui nous écoutent là aujourd'hui ? On a fermé les bars, on limite les restaurants. Est-ce qu'il faut aller plus loin, chacun, dans sa sphère privée ?
Alors, il ne faut surtout pas reconfiner parce que reconfiner, c'est une catastrophe économique, donc une catastrophe sanitaire. L'économie et la santé sont complètement liées, ne sont absolument pas opposées. Par contre, respecter les mesures barrières, porter le masque, homologuer et surtout bien le porter dans les lieux clos. Le message qui n'est pas assez martelé par nos autorités, c'est protéger les personnes à risque, les patients âgés, les patients qui ont des maladies chroniques. C'est cela qu'on voit arriver à l'hôpital. Ça n'a pas changé. Et donc, il faut mettre le paquet sur les mesures barrières vis-à-vis des personnes à risque et vis-à-vis des lieux à risque, c'est-à-dire les lieux confinés à haute densité de population.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h49 sur Europe 1. Sophie Petronin est libre. C'était la dernière otage française dans le monde. Après 4 ans de détention au Mali, elle a atterri hier soir à l'aéroport de Bamako et sera accueillie en France par Emmanuel Macron dans la journée. Lille, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne passent à leur tour en zone d'alerte maximale dans cette épidémie de Covid. À partir de demain matin, Toulouse et Montpellier pourraient basculer d'ici lundi. Et puis toujours aucune trace des 3 agresseurs de 2 policiers mercredi soir à Herblay dans le Val-d'Oise. Ils leur ont volé leurs armes de service et leur ont tiré dessus. L'un des fonctionnaires a été très grièvement blessé.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
On écoute Le Monde Changer et on continue chaque matin de mettre en lumière ces Français qui regorgent de bonnes idées. Jérôme Lacroix, toutes ces initiatives que vous repérez en région. Et ce matin, donc, l'histoire de ces petites briques qui améliorent le quotidien des personnes handicapées.
C'est l'histoire des Rampego. Rampego, le mot n'existe pas. Contraction des mots rampe et Lego, c'est l'idée pas du tout farfelue de la branche ardennaise de l'association APF France Handicap. Construire des rampes d'accès pour les personnes en fauteuil avec les célèbres briquettes jouets Vigo.
Mais comment c'est possible? Ça marche, ça?
Oui, l'association est partie de ce constat. En France, 9 personnes à mobilité réduite sur 10, 9 sur 10 rencontrent au quotidien des difficultés pour se déplacer en dehors de la maison. Alors, les bénévoles se sont demandé comment construire des rampes d'accès à moindre frais, puisque oui, c'est bien souvent ça le problème. Ils ont alors l'idée de les construire en Lego. Ça peut paraître farfelu, pas du tout. Il faut 1500, 1600 pièces pour construire par exemple une rampe d'accès plus une petite marche de quelques centimètres à l'entrée de la boulangerie, de la pharmacie, en de nombreux endroits où il y a des marches. Et en plus, c'est esthétique, c'est coloré.
Et c'est un projet auquel chacun d'entre nous peut prendre part.
L'association a lancé un appel aux dons. Si vous avez fait le vide des Lego des enfants pendant le confinement et que le carton traîne dans le garage, c'est le moment de les envoyer à la délégation ardennaise d'APF France Handicap, 55 avenue Léon Bourgeois à Charleville-Mézières. Voilà, sinon, des points de collecte fleurissent dans les Ardennes, dans la Marne. Le dernier inauguré lundi à Reims, parce que ça sert certes au fauteuil roulant, mais aussi au déambulateur ou encore aux poussettes.
Et ça donne une deuxième vie à ces jouets en plastique.
Absolument.
Qui ne sont pas forcément très écolos.
Mais
les Lego, c'est quand même tout petit. Il faut un peu de patience.
Et alors, il faut saluer le talent d'ingénieur de ces bénévoles qui construisent ces rampes d'accès. Il y a des photos sur le site d'APF France Handicap. Oui, allez voir tout ça, c'est assez fascinant.
Jérôme Lacroix, La France bouge tous les matins. Il est 5h51, on va regarder les réseaux sociaux avec vous, Paul Lassen. Et c'est une série qui fait beaucoup parler.
Oui, une série Netflix qui fait beaucoup réagir et beaucoup rire les internautes.
Comme si de rien n'était. Moi, je suis pas comme ça. Je me bats pour faire les choses bien. Et ce soir, j'ai pris les mauvaises décisions.
Tu ne viens pas à Paris pour être sage.
Alors, ça s'appelle Emily in Paris. Et comme son nom l'indique, la fiction se déroule dans nos rues, les rues de la capitale. Le pitch, en deux mots, Émilie est une jeune américaine qui décroche le boulot de ses rêves à Paris et adopte le mode de vie typique parisien, typique ou plutôt caricatural. Tout y passe, par exemple, la chambre de bonne occupée par Émilie, caricaturée par les internautes comme un palace haussmannien hors de prix. Mais pas seulement, le cadre parisien aussi en prend pour son grade. Finalement, Hidalgo avait raison, on peut voir Paris plus propre en 2020. Dommage que ce soit dans une série écrite Tilo, un véritable bashing sur lequel Netflix...
Un pari trop parfait, quoi.
Un pari beaucoup trop parfait, beaucoup trop imagé. Et bien Netflix a décidé de jouer de ses critiques sur Twitter en posant la question à ses abonnés. Si Emily était venue dans ta ville et non pas à Paris, ce serait quoi les gros clichés de la série? Un très bon coup de com' de la plateforme qui a engendré des milliers de réponses. Deux petits exemples. Émilie à Saint-Étienne qui fait ses tours de tramway puisqu'il n'y a que ça à faire là-bas. Ou encore Émilie au Mans, elle mangerait des rillettes et ferait des tours H24 dans la ville. Hein, référence bien sûr aux 24 heures du Mans. Toutes ces critiques en tout cas vérifient l'adage, que ce soit en bien ou en mal, l'important c'est que l'on parle de vous.
Oui, oui, et puis Paris, le Paris carte postale, c'est aussi dans les films, dans
Mais
les
bien
séries.
Sûr.
Voilà, il faut
s'en amuser.
Ça continue d'entretenir le mythe, c'est d'attirer les touristes. Enfin, le jour où ils pourront revenir.
Voilà.
Les réseaux sociaux tous les
Merci.
Matins avec Paul Lassen. Bon week-end. Et on la raconte chaque jour sur Europe 1 à 14h. Le podcast, il est en ligne dès maintenant. Vous pouvez déjà écouter l'histoire du jour. C'est une partie de poker sanglante. Aujourd'hui, à Corté, en 2005, en Haute-Corse, Joseph Vincenzini, proche du gang de la Brise de Mer, disparaît. Lui qui organisait des parties de poker dans son bar, l'Oasis. Alors qui a tué Jojo? La mafia? Un joueur? Le mari d'une maîtresse? Tout est possible. Le récit On de la Traconte à télécharger dès maintenant sur Europe1.fr. C'est un tube mythique ce matin dans la partition d'Omblin Roche. Vous l'avez reconnu, John Lennon, Imagine à suivre. Il est 5h54.
Europe 1.
6h05, nous ouvrons la partition d'Omblin Roche avec un album ce matin. L'histoire derrière l'album Imagine. Lorsque cet album sort, les Beatles n'existent plus depuis un an et demi. Et il a déjà sorti le disque très remarqué Plastic Ono Band. John Lennon, le rebelle toujours prêt à en découdre, devient l'icône absolue du pacifisme.
Nous sommes en 1971, Sébastien, l'Amérique est enlisée au Vietnam et le monde entier manifeste son opposition au conflit, figure de proue des revendications pacifistes. John Lennon et sa compagne Yoko Ono avaient déjà reçu 2 ans plus tôt des journalistes dans leur lit dans un hôtel de Montréal pour réclamer publiquement la paix dans le monde.
Vous
John Lennon fait de sa vie un happening permanent et mène aux côtés de Yoko Ono un combat humaniste.
Et ce disque qu'il est en train d'enregistrer est plus apaisé, avec les arrangements plus doux, enrobé un message politique avec un peu de miel, dit-il. John Lennon dispose d'un studio personnel chez lui à Tittenhurst Park, à une heure de Londres.
Il se remet à peine de la séparation des Beatles et entame sa période blanche.
Une grande maison blanche dans sa campagne anglaise. Il compose sur un piano blanc dans une pièce immaculée. Jealous Guy est à l'origine la chanson Child of Nature, composé pour l'album blanc des Beatles, mais qui n'avait pas été retenu. I was dreaming of the past,
and my heart was beating fast. En revanche, pour une piste du disque, John Lennon ne prend pas la peine d'enrober le message.
Un changement de ton dans How Do You Sleep, il règle ses comptes en réponse à un commentaire de son meilleur ennemi de l'époque, Paul McCartney, sur son album Ram. John Lennon sort le missile, l'accuse de s'entourer de ringards, d'être infantilisé par sa femme Linda, et ses compositions sont réduites à des musiques d'ascenseur. Ringo Starr lui dit qu'il va trop loin, George Harrison de son côté se contente de jouer de la guitare. Quelques années après, John Lennon reviendra sur ses paroles. En fait, c'est moi-même que j'attaque.
Avec ce disque, John Lennon renoue surtout avec son public.
Et la chanson d'ouverture Imagine, inspirée d'un poème de Yoko Ono, avec son message universel de paix et d'amour, est un triomphe. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Universel, Imagine, de John Lennon. John Lennon qui aurait dû fêter ses 80 ans aujourd'hui.
Et pour célébrer sa mémoire et cet anniversaire, un coffret sort aujourd'hui baptisé Gimme Some Truth qui rassemble ses plus grandes chansons.
La partition signée Amblin Roche tous les matins juste avant 6h. À lundi. Laurent Cabrol, c'est à vous pour la météo.
Bon, eh ben voilà, on va parler pluie après cette très jolie chanson. Bretagne, dans Champagne-Ardenne, région parisienne, Normandie, c'est un peu pluvieux ce matin, avec des éclaircies qui vont apparaître dans l'après-midi quand même, ou en tout cas un temps sec, notamment sur la capitale. Du Poitou-Charentes au Berry, au Morvan, à la Lorraine, à l'Alsace, pluvieux plutôt cet après-midi. Donc là, vous aurez un après-midi plutôt, humide. Allez, sur le littoral de la Manche, des éclaircies. Mais ce matin, et ensuite des averses, sur le sud-ouest Limousin, ça ira mieux. Sud-ouest Limousin, Allier, Franche-Comté, très nuageux mais sec, puis bassin méditerranéen, Auvergne, Rhône-Alpes, et dans toutes ces contrées, des éclaircies largement présentes. Voilà, vous savez presque tout, les températures pour aujourd'hui entre 17 et 21 degrés. Franchement, ça va vraiment baisser demain, on vous le dit, on vous le redit depuis maintenant plusieurs jours. Donc on en profite, il fera 17 à Paris.
Et on sortira les pulls et les écharpes demain. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci de nous rejoindre ce vendredi matin sur Europe 1. On écoute Le Monde Changer. Un nouveau journal tout de suite. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h.
Je me suis dit, surtout n'accorde pas d'importance à la mort, parce que tu ne sais pas où, quand et comment elle arrivera.
Pendant près de 4 ans, Sophie Pétronin a toujours gardé espoir. La dernière otage française dans le monde a été libérée au Mali cette nuit. Ses premiers mots sont pour son fils qui a livré un combat acharné pour la retrouver. Plus de rouge foncé sur la nouvelle carte de l'épidémie de coronavirus. Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille vont basculer en zone d'alerte maximale. Dans ce journal, le fonds de solidarité post-crise sanitaire élargi à de nouvelles activités. La recherche française décroche, c'est le constat de la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal après les déclarations de la nouvelle prix Nobel
Nobel de chimie. Et puis l'usage du glyphosate bientôt limité. Il sera interdit quand une alternative non chimique sera possible.
Dans un quart d'heure, la parole à un dyslexique à l'occasion de la journée nationale qui est consacrée à ce trouble demain. Un trouble qui peut être handicapant, mais mon invité inattendu ce matin est la preuve qu'il n'y a pas de fatalité puisque lui, ancien dyslexique, a pu mener une longue carrière politique. Il a même dirigé le Parti Socialiste. Je l'appellerai à 6h15 et puis on retrouvera Fanny Agostini. Il est 6h01, bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sophie Pétronin a donc atterri à Bamako, au Mali, cette nuit, après avoir été retenue en otage pendant près de 4 ans. Sur le tarmac, son fils s'est précipité dans ses bras en larmes, des retrouvailles très émouvantes et très attendues.
Et depuis 4 ans, il menait une lutte acharnée pour faire libérer sa mère, en perdant parfois espoir. Peu après son arrivée, Sophie Pétronin s'est entretenue avec nos confrères de France 24. Ses premiers mots ont justement été adressés à son fils Sébastien.
Mon fils, pardonne-moi, je t'ai donné beaucoup de peine, du travail pour m'aider à sortir de là où j'étais, alors que vraiment je te demande de me pardonner. Au fond de moi, j'ai toujours été sûre et certaine que je retournerais, que je ne mourrais pas entre les deux. Et je me suis dit, surtout n'accorde pas d'importance à la mort, parce que tu ne sais pas où, quand et comment elle arrivera. Vas-y, tiens bon, accroche-toi. C'est lui qui l'avait dit dans une vidéo. Accroche-toi, tiens bon. Et ben, c'est ce que j'ai fait.
Qu'est-ce que vous dites aux autorités maliennes?
Oh, je les remercie du fond du cœur. Tout s'est passé, mais d'une et avec le calme, le sourire. C'était du haut niveau.
Voilà, les premières déclarations de Sophie Pétronin cette nuit sur France 24. Peu après son atterrissage, elle a fait part de sa volonté de retourner à Gao, dans le nord du Mali, pour s'assurer du bon fonctionnement de l'organisation d'aide aux enfants qu'elle dirigeait. Son fils a tout de suite émis des réserves. « Attends-toi à ce que je cadre certaines choses », a-t-il répondu. « Tu n'iras pas où tu veux ».
L'actualité de ce vendredi, c'est aussi le passage imminent de Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne en zone d'alerte maximale.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé hier lors d'un nouveau point sur l'épidémie en France. Dès demain, de nouvelles restrictions sanitaires seront donc appliquées dans ces quatre métropoles, car les indicateurs sont au rouge, Victor Delande.
Oui, les cas se multiplient à Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne. Le gouvernement est très inquiet du nombre de contaminations chez les plus de 65 ans, des personnes qui, on le sait, ont plus de risques de développer une forme grave de la maladie. Et dans ces quatre villes, le taux d'occupation des lits de réanimation a déjà dépassé les 30%, avec des chiffres très légèrement en dessous. Toulouse et Montpellier échappent de justesse au classement en zone d'alerte maximale. Le gouvernement se donne jusqu'à lundi matin pour trancher sur ces deux métropoles. Ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. Olivier Véran a quand même apporté des signes d'amélioration. Les contaminations baissent à Nice, Bordeaux, Rennes et Aix-Marseille. Mais le ministre ne veut pas pour autant se précipiter.
Avant de crier victoire, il faut avoir suffisamment de recul. Être sûr que dans la durée, la circulation du virus se réduit. Pour alléger des mesures, il faut être sûr qu'elles sont efficaces pour éviter un effet yo-yo de reprise épidémique si on allégeait trop tôt.
Autre bonne nouvelle, la Nièvre et le Morbihan quittent la zone d'alerte renforcée. Enfin, il n'y aura pas de restrictions de déplacement lors des vacances de la Toussaint. Les Français vont pouvoir retrouver leurs proches, mais attention, a rappelé Olivier Véran, ils devront être extrêmement vigilants, notamment lors des retrouvailles en famille, pour éviter les risques de contamination.
Victor Delande, autre annonce hier soir du ministre de l'économie Bruno Le Maire, cette fois le fonds de solidarité, cette aide de l'État pour les entreprises durement touchées par la crise va être élargie.
Elle concernera toutes les entreprises de moins de 50 salariés. C'était 20 jusqu'à présent. Une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 euros par mois en fonction du montant des pertes et qui va donc concerner de nouvelles activités, Carole Ferry.
Oui, les métiers indirectement touchés et auxquels on ne pense pas immédiatement. Les fleuristes, par exemple. Certains sont spécialisés dans la décoration des séminaires d'entreprise ou des hôtels de luxe. Ceux-là ont beaucoup moins de travail, voire plus du tout. Et pourtant, ils n'avaient pas le droit jusqu'ici au fonds de solidarité. Eh bien, désormais, ils pourront le demander. Pareil pour les pressings et blanchisseries. Avec les hôtels et restaurants en crise, ils n'ont plus autant de nappes ou de draps à laver. Il y a aussi les graphistes qui s'occupent du design des salons professionnels ou des faire-part de mariage. Ou encore les bouquinistes des quais de Paris qui ne voient plus de touristes étrangers. Bref, il y en a encore d'autres. Alors ce fonds de solidarité, il était réservé jusqu'à présent aux entreprises de moins de 20 salariés. Ce sera désormais moins de 50. Pour en bénéficier, il faut aussi avoir une baisse du chiffre d'affaires de 80%. Ça va passer à 70%. Avec une aide qui peut désormais aller jusqu'à 10 000 euros par mois en fonction du montant des pertes.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Jean Castex attendu à Toulouse aujourd'hui, accompagné de ses ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation. Le Premier ministre annoncera notamment des moyens supplémentaires pour la police locale.
Il est 6h06 sur Europe 1. Nicolas Bétou vous en parlait hier matin dans le 7-9 de Mathieu Béliard. Le prix Nobel de chimie décerné à la Française Emmanuel Charpentier révèle la faible attractivité de la France qui n'a pas les moyens de conserver ses chercheurs.
Si elle a fait ses études en France, Emmanuel Charpentier a développé sa carrière aux États-Unis et en Allemagne. Elle a elle-même déclaré que la France aurait eu du mal à lui donner les mêmes moyens qu'en Allemagne. La réponse de la ministre de la Recherche, Frédéric Vidal.
En 2000, nous avions pris, en même temps que l'Allemagne, l'engagement de porter notre investissement dans la recherche à 3% du PIB. L'Allemagne a atteint les 3%. 20 ans plus tard, en France, nous sommes toujours à 2,2%. Et c'est bien tout l'objectif de la loi pour la recherche que de nous permettre enfin d'atteindre ces 3%. C'est grâce à cet investissement massif que, effectivement, des gens comme Emmanuel Charpentier, mais aussi toutes les personnes qui contribuent à la génération de connaissances, eh bien, vont pouvoir avoir envie de venir, de revenir ou de rester dans notre pays pour participer à cet effort de recherche.
Frédéric Vidal, ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, au micro Europe 1 de Stéphane Place.
Europe 1. Bientôt de nouvelles restrictions sur l'usage du glyphosate. Il faudra faire sans l'herbicide dès lors qu'une solution non chimique existe. Les précisions dans un instant. A tout de suite dans le journal de 6h sur Europe 1. Il est 6h07.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h09, la suite du journal, Sophie Echen.
L'ANSES resserre la vis sur l'usage du glyphosate. L'Agence de sécurité sanitaire dévoile ce matin une série de restrictions sur l'usage de cet herbicide très controversé. Cela concerne notamment la viticulture ou les grandes exploitations de colza et de tournesol par exemple. En fait, Virginie Salmen, le glyphosate sera interdit partout où on pourra faire autrement.
Oui, par exemple, dans les vignes. Entre les rangs, les herbes qui poussent font concurrence à la vigne. Il faut donc les éliminer. Mais il est possible de désherber en passant un tracteur pour tondre. Le glyphosate sera donc interdit entre les rangs. En revanche, sous les pieds de vigne, difficile d'accès, impossible de désherber mécaniquement, les vignerons pourront donc continuer à utiliser l'herbicide sur ces zones-là, c'est-à-dire sur 20% de leur parcelle, mais à des doses plus faibles. Au total, c'est une réduction de 80% par rapport à la dose maximale autorisée actuellement en viticulture. L'Agence de sécurité sanitaire annonce le même type de restriction pour 3 autres cultures, les vergers d'arbres fruitiers, les champs de grandes cultures, donc blé, maïs, colza, pois, et les forêts pour l'exploitation du bois. Alors, ces nouvelles règles pourront demander des investissements minimes aux agriculteurs, par exemple l'achat de tracteurs pour tondre, mais l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'inconvénients économiques majeurs à cette nouvelle méthode.
Et donc Virginie, ça va permettre de réduire les volumes de glyphosate utilisés en France ?
Alors, ça devrait les faire diminuer de plus de 50% selon le ministère de la Transition écologique, puisque c'est très majoritairement dans l'agriculture que le glyphosate est utilisé, 8000 tonnes par an. Pour vous donner une idée, les voies de chemin de fer où l'herbicide reste autorisé ne représentent que 0,6% des usages. 5 produits à base de glyphosate seront désormais autorisés en France. Les autorisations de mise sur le marché de 4 autres produits ont été refusées.
Virginie Salmen, et on en parle tout à l'heure à 6h40 avec mon invité. Quel impact pour les agriculteurs ? Je poserai la question à Nicolas Giraud, le porte-parole de la Confédération paysanne.
Et puis la saison des prix Nobel se poursuit. Le Nobel de la paix sera décerné aujourd'hui. Il pourrait récompenser la militante écologiste Greta Thunberg, la liberté de la presse ou encore l'Organisation mondiale de la santé.
Voilà, résultat quoi, aux alentours de midi en général. Près. On va suivre ça à 6h11. C'était le journal de Sophie Echen.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Jérôme Lacroix pour le journal des sports et à la une, un roi a détrôné.
Rafael Nadal, c'est lui le roi. 2 fois seulement, il a été battu sur terre à Roland-Garros. Il vise un 13e titre, porte d'Auteuil, un 20e grand chelem. Il égalerait le record de Roger Federer. 2 marches encore à gravir, l'Espagnol est en demi-finale aujourd'hui face à un homme. 28 ans, 14e mondial cet homme, c'est Diego Schwartzman, l'Argentin, qui a dominé Nadal il y a 3 semaines sur terre battue, c'était au tournoi de Rome. Schwartzman, l'ambitieux donc, fort de ce récent succès, mais peut-il faire tomber Rafael Nadal ? Analyse de l'ancien champion français Cédric Pioline, consultant européen.
Non, je pense vraiment que l'Argentin a les moyens de le bousculer fort. Nadal est favori sur le match. Rome, Schwartzman, il faut lui donner tout le mérite, il a gagné ce match. Mais c'était, n'oublions pas, le tournoi de reprise pour Rafael Nadal, qui, probablement qu'il avait besoin de réglages, qui qu'il a probablement eu avec tous ces matchs pour accéder jusqu'aux demi-finales.
Nadal Schwartzmann, première demi-finale messieurs à 14h50, suivra la seconde entre Novak Djokovic et le grec Stefanos Tsitsipas. Et puis côté dames, finale demain entre deux jeunes joueuses de 19 et 21 ans, la polonaise Świątek face à l'américaine Kenin.
Et puis une information importante, on dit qu'il n'y a plus de Français à Roland-Garros, mais en fait si.
Bravo à Elsa Jacquemot, 17 ans, la jeune lyonnaise est en demi-finale du tournoi junior. Elle affrontera pour une place en finale une joueuse des Philippines, classée 4e mondiale chez les juniors. Jacquemot est 6e.
Pas mal, bravo, bravo.
Oui, bravo.
Le foot, et ils sont tous fans de Kama.
Kamavinga, Eduardo de son prénom, le tout jeune bleu, 18 ans, moins un mois, qui a intégré le groupe France il y a quelques semaines. Deuxième sélection avant-hier contre l'Ukraine. Un premier but pour le très prometteur milieu de terrain de Rennes. Le garçon, bon sur le terrain et aussi bon camarade, dixit Paul Pogba, qui l'a adoubé.
Très à l'aise, un petit danseur. Fait un peu penser à moi quand... Voilà, c'est une personne qui, voilà, qui est pas timide et c'est bien parce qu'il est, il est confiant. La confiance en lui, confiance en ses qualités, c'est un très 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 bon petit.
Et dimanche, France-Portugal au Stade de France en Ligue des Nations.
L'histoire du jour.
Le défi fou de Théo Curin, nageur de très haut niveau, à peine 20 ans, amputé des 4 membres, enfant à cause d'une méningite foudroyante. Mannequin, chroniqueur télé, c'est un athlète, un paralympique, médaillé mondial. Il a participé aux Jeux 2016 aussi, mais il n'ira pas au prochain jeu l'été prochain à Tokyo. Il fait l'impasse pour son défi hors norme, traverser la partie péruvienne du lac Titicaca, 122 km à près de 4000 mètres d'altitude. Il devra nager pendant environ 10 jours. L'entraînement démarre aujourd'hui pour une traversée prévue dans un an.
Waouh, incroyable, incroyable défi. C'était le Journal des Sports signé Jérôme Lacroix. Il est 6h14.
C'était le Journal des Sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1.
Et vous allez maintenant découvrir qui est l'invité inattendu du 5-7. Alors demain, samedi, a lieu la journée nationale consacrée aux personnes dyslexiques, ce trouble du langage ou de l'écriture. Et c'est un dyslexique assez inattendu qui est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour, c'est Jean-Christophe Cambadélis.
Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Voilà, nos auditeurs le découvrent probablement. Vous avez souffert de ces troubles dyslexiques à l'école, ce qui ne vous a pas empêché donc d'avoir la carrière politique qu'on connaît. Vous allez nous raconter un peu comment vous avez géré ça. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
L'invité inattendu du 5-7 ce matin est l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Mais pas du tout pour parler politique ce matin, pour parler des troubles dyslexiques à l'occasion de la journée qui est consacrée demain aux personnes qui en souffrent. On va rappeler ce qu'est la dyslexie, Jean-Christophe Cambadélis. Pour vous, ça s'est manifesté comment ?
Alors, par une inversion des chiffres, des lettres, une difficulté de lecture, d'écriture, une dysorthographie. Parce que, revenant d'un séjour au Québec où mes parents étaient partis travailler, mon instituteur s'est mis en tête de m'obliger à écrire de la main droite. Alors que j'étais bien sûr gaucher.
Vous aviez quel âge ? C'était en quelle classe ?
J'avais 8 ans.
École M2. Primaire.
Et tous les matins, quand on se mettait en rang, l'instituteur passait derrière moi et m'accrochait la main gauche derrière le dos, m'obligeant à écrire. Donc je faisais des gros pâtés, puisque je ne pouvais pas écrire, c'était impossible. Je ne savais même pas comment tenir mon porte-plume, puisque à l'époque nous avions des porte-plumes. Et donc, petit à petit, j'ai fait des efforts pour maîtriser, mais j'inversais les mots. Pour comprendre, j'écrivais Lyon au lieu de loin, j'écrivais les 5 à l'envers, c'était impossible de faire une addition, une multiplication, etc.
Et la source était là, on vous avait contrarié, vous étiez le gaucher contrarié qu'on avait forcé.
Vous vous rendez compte, pour moi, un gaucher contrarié. Après toute votre vie, vous êtes à gauche.
Aujourd'hui, vous n'êtes plus un gaucher contrarié.
Voilà, non. Non, aujourd'hui, je peux utiliser les deux mains, je le faisais dans le sport. C'est une petite compensation, c'est de pouvoir utiliser les deux pieds ou les deux mains dans le sport. Mais,
ça vous a poursuivi longtemps, ces troubles ?
Ah, très, 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 très longtemps. Même encore maintenant, quand je suis un peu fatigué, j'ai tendance à inverser les mots, même dans mes discours. Et Dieu sait que j'en faisais. Il y avait des moments où il fallait que je me reconcentre parce que les mots m'apparaissent embrouillés.
Vous écrivez de quelle main aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je tape sur mon ordinateur, donc c'est assez simple, mais j'écris de la main droite.
Comment vous avez réglé ces troubles-là? À quel âge?
Je les ai réglés petit à petit, je les ai contournés. C'est donc j'ai développé un sens de la parole et de l'expression. Ça provoque aussi des grandes difficultés à la lecture, parce que la concentration n'est pas la même, puisque vous confondez les mots, vous les inversez. En plus, quand vous avez la méthode globale que l'on enseignait à l'école, ça crée des grandes difficultés. Donc, je me suis mis à écrire. Voilà. Et je n'arrête pas. J'écris du matin, le midi, le soir, des livres, des mots, des posts, des petits textes. Et c'est par l'écriture, par la préparation de l'écriture de mes discours, que j'ai fini par avoir une maîtrise, c'est beaucoup dire, mais mieux maîtriser mon expression.
Vous dites maîtriser l'expression, maîtriser cette forme de handicap, finalement, ça veut dire que quelque part, il est toujours là, il peut revenir, et vous le disiez quand
oui,
vous
oui, il est toujours là. D'ailleurs, ça fait souvent rire mes enfants, parce qu'il m'arrive d'inverser les mots. Oui.
Le message positif, en tout cas, que vous envoyez, c'est que ça ne vous a pas empêché d'avoir une carrière politique, et donc, vous le disiez, d'écrire,
absolument,
de prendre la parole en public, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité pour les enfants.
Il
n'y
a pas de
fatalité,
bon, ça demande un peu de travail, et puis de se concentrer sur d'autres points, puisqu'au point de départ, l'écriture était très mauvaise, évidemment, et l'orthographe, je n'en parle pas, mais je suis devenu, dans ma classe, un bon acteur de pièces de théâtre, puis après un orateur politique, puis après quelqu'un qui s'est mis à écrire des livres, et donc petit à petit, par des stratégies de contournement, évidemment, mais on réussit à dominer et maîtriser cet handicap.
Oui, voilà, c'est tout le message positif que vous envoyez ce matin sur Europe 1, Jean-Christophe Cambadélis, avant cette journée donc de demain, qui est la 14e journée nationale des dyslexiques, mais aussi de ceux qui souffrent d'autres troubles comme la dysphasie ou la dyspraxie. Ouais. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu ce matin de l'invité inattendu, Jean-Christophe Cambadélis, sur Europe 1. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Europe 1, Sébastien Krebs.
6h22, les grands titres à retenir ce matin. Sophie Pétronin est libre après 4 ans presque de détention au Mali. La dernière otage française est arrivée à l'aéroport de Bamako cette nuit où elle a retrouvé son fils. Emmanuel Macron l'accueillera à son retour sur le sol français aujourd'hui. Lille, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne rejoindront demain Paris, Aix et Marseille en zone d'alerte maximale. Un peu de sursis en revanche pour Toulouse et Montpellier, mais qui pourraient basculer dès lundi si la situation ne s'améliore pas. Et puis Donald Trump pourrait reprendre sa campagne présidentielle dès demain. Il envisage un meeting en Floride. Le président est pourtant toujours en convalescence après avoir été contaminé au coronavirus il y a une semaine.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Il est 6h25. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On regarde notre planète avec vous et vous avez peut-être été témoin, si vous nous écoutez, d'un phénomène inhabituel ces derniers jours. Des nuées d'oiseaux migrateurs sont venus se réfugier dans les villes et vous nous dites, Fanny, mais parfois même jusque sur des canapés.
Carrément, des oiseaux blottis les uns contre les autres sur le canapé de son salon. C'est la surprise qu'a eue cette habitante d'une petite ville du Limousin qui avait laissé sa fenêtre ouverte lors de ces derniers jours tempétueux. C'est pour se réchauffer que les hirondelles et martinets noirs ont pris d'assaut par milliers balcons et balustrades venant à nos fenêtres. Vous êtes nombreux à vous être étonnés de ce comportement inhabituel sur les réseaux sociaux. C'est en fait la météo qui a changé brutalement et qui est venue perturber le plan de vol de ces oiseaux migrateurs vers l'Afrique, et l'arrivée du froid, de la pluie et du vent ne leur a pas laissé d'autre choix que de faire un atterrissage forcé.
Pourtant, ces oiseaux qui migrent arrivent normalement à anticiper l'arrivée du froid et ils adaptent leur trajet. Pourquoi ils se sont fait surprendre cette année ?
Eh bien, c'est vrai qu'habituellement, les oiseaux migrateurs repèrent les fenêtres météorologiques favorables pour se lancer dans leur long périple vers l'Afrique pour prendre leur quartier d'hiver. Mais cette année, en raison des fortes chaleurs, la période de nidification a été chamboulée. La couvaison a donc été repoussée et les œufs ont éclos plus tardivement. Résultat, les petites hirondelles juvéniles n'étaient pas prêtes car trop frêles pour partir faire ce long voyage. Difficile pour elles d'encaisser de telles variations de température comme nous l'avons vécu dernièrement. Et c'est encore un des effets du changement climatique qui perturbe à la fois le cycle de reproduction des animaux, mais également les met en danger en perturbant aussi le rythme de leur migration.
Et du coup, les centres de soins de la Ligue de protection des oiseaux ont recours à des moyens exceptionnels pour tenter de les sauver.
Oui, en leur payant un chauffeur privé. C'est une grande première. Les hirondelles rescapées qui ont été nourries et réchauffées dans les refuges se sont vues, pour certaines, embarquées dans un véhicule direction le sud pour rejoindre leurs congénères qui les avaient déjà devancées de quelques centaines de kilomètres. Une migration assistée qui pourra peut-être leur sauver la mise cette année, mais quid des suivantes si la dérégulation du climat s'amplifie. En tout cas, conseil de la LPO, si vous trouvez des hirondelles ou des martinets en détresse, n'hésitez pas à les attraper en veillant bien, lorsque vous les prenez dans la main, à laisser leurs ailes plaquées contre leur corps pour ne pas qu'elles se blessent. Puis, à la maison, vous pouvez les laisser dans une boîte à chaussures. Une fois réchauffées et reposées, elles pourront repartir naturellement. Ou bien, si elles sont vraiment mal en point, ramenez-les dans le refuge pour animaux sauvages le plus proche.
Voilà, on retient ces chauffeurs privés pour aider à la migration des oiseaux qui avaient pris un petit peu de retard pour rattraper le retard et les emmener dans le sud. Merci Fanny Agostini, Notre Planète, tous les jours avec vous à 6h25. À lundi. Laurent Cabrol, avant l'arrivée du froid que vous nous annoncez, c'est un vendredi un peu plus doux, ça va ?
Oui, c'est un petit peu plus doux aujourd'hui, bien sûr, un peu comme 6 jours derniers. Hein. 17 à Paris, 18 à Dijon, cet après-midi, 20 à Nice, 21 à Marseille. Il faut ajouter quand même une petite perturbation qui traverse la France. Alors, elle n'est pas très méchante, mais enfin, elle donne un peu de pluie. En Bretagne, Champagne-Ardenne, région parisienne, Normandie, sur la région parisienne, les pluies sont vraiment très discrètes, mais enfin, il y en a, il y en aura. Mais elles ne durent jamais bien longtemps, et après le passage de ce front pluvieux, eh bien, nous allons devoir retrouver quelques éclaircies, ce ne sera pas trop désagréable. Le Poitou-Charentes recevra aussi cette petite pluie cet après-midi, comme le Morvan et la Lorraine. Et puis dans les autres régions, eh bien, ce sera un temps certes nuageux, mais sec et pas trop désagréable.
Merci voilà. Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, bon réveil en ce vendredi 9 octobre. Toute l'actualité, c'est avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal, il est 6h30.
Comme j'ai vu que c'était déjà le cas à Marseille et Paris et que nous on était mal au point dans la région, on a décidé d'anticiper le protocole.
4 métropoles de plus en zone d'alerte maximale. Certains restaurateurs lillois avaient prévu le coup et appliquent déjà le nouveau protocole sanitaire. Comment fait-on pour se laver quand on n'a pas d'eau courante depuis une semaine ? Dans un des villages sinistrés du sud-est, on est en train d'installer des tuyaux jusqu'aux sources dans la montagne. Et puis les demi-finales messieurs à Roland-Garros, suspense, Nadal pourrait-il perdre ? Perdre au moins un set. Il reconnaît que son adversaire Diego Schwartzmann a un petit avantage.
La réduction de l'usage du glyphosate entre dans le dur. Nouvelle restriction annoncée ce matin par l'Agence de sécurité sanitaire. L'herbicide sera désormais interdit partout où des solutions chimiques, non chimiques sont possibles. Dans les vignes, les arbres fruitiers ou encore dans les champs de céréales. Est-ce tenable pour les agriculteurs ? Je poserai la question dans 10 minutes au porte-parole de la Confédération paysanne, Nicolas Giraud. À suivre aussi votre revue de presse internationale et l'innovation du jour avec Anis et Mbida. Bienvenue, bon réveil, 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La zone d'alerte maximale, autrement dit le rouge écarlate, concerne désormais aussi Grenoble, Saint-Étienne, Lyon et Lille. Annonce du gouvernement hier, les restrictions seront en place dès demain. Protocole renforcé dans les restaurants par exemple, mais à Lille, on s'y attendait. Alors, comme a pu le vérifier Maximilien Carlier, nombre de restaurateurs sont déjà dans les clous.
Messieurs, dames, je vous invite à noter votre nom, prénom et numéro de téléphone.
Jonathan, le patron du Fort de Mons, pointe du doigt la table haute à l'entrée du restaurant. Table avec gel hydroalcoolique, cahier, stylo. Jean-Pierre écrit ses coordonnées.
C'est une évolution dans les pratiques, mais en même temps, si je dois être informé d'un éventuel problème de santé, je serai content. Et comme j'ai pas trop de soucis de confidentialité sur ma présence ici, je suis pas du tout gêné.
Le secret de ce gérant, prendre les devants.
Comme j'ai vu que c'était déjà le cas à Marseille et Paris et que nous on était mal au point dans la région, on a décidé d'anticiper le protocole.
Des tables de 6 maximum, espacer, limiter les déplacements, paiement à la table.
Tout est prêt pour bien faire les choses. On a mis aussi les affiches de la capacité du nombre de personnes à respecter à l'entrée du restaurant. Je pense qu'on est dans les règles.
Restez dans les clous surtout, pas d'erreur. Le plus dur peut-être pour les clients, ça sera...
Porter leur masque avant de passer au repas à table et seulement l'enlever quand ils boivent leur verre.
Mais pas le choix, il faudra l'appliquer également. Dès demain, ce gérant veut éviter à tout prix la fermeture administrative, lui qui a déjà perdu 150 000 euros pendant le confinement. Mansambarol, Barol, Maximilien Carlier, Europe 1.
Autre annonce du gouvernement hier, le fonds de solidarité est élargi à 31 professions supplémentaires comme les loueurs de voitures ou les fleuristes.
Attendent dans la vallée de la Roya, l'électricité est maintenant en partie rétablie. La ville est également ravitaillée par hélicoptère, mais l'eau courante n'est toujours pas de retour.
Alors face à l'urgence, il a été décidé de trouver d'autres moyens pour alimenter la ville et ses habitants en eau, notamment en essayant de capter l'eau des sources de la vallée. Reportage sur place, Jean-Jacques Herry.
Pour atteindre la source Sainte-Catherine, il faut grimper un peu et marcher 400 mètres à l'écart du village. Inès nous sert de guide.
La Sainte-Catherine, c'est notre salut.
Deux tuyaux ont été raccordés à ce qui n'était auparavant qu'une fontaine. Le jaune remplit les camions-citernes des pompiers qui font des allers-retours pour livrer l'eau à l'hôpital. Le tuyau noir, lui, n'est pas encore en service. Le but, c'est de relier le réservoir d'eau, explique Thibault Lejean, le plombier, croisé un peu plus bas.
On a un bassin tout en haut du village qui alimente tout le village. Mais le CHU a aussi un tuyau qui part de ce bassin pour alimenter que le CHU. Donc notre but, c'est de remplir le bassin pour que le CHU puisse avoir l'eau au plus tôt.
L'hôpital est une priorité ici, mais malheureusement, dans une des ruelles, le tuyau arrête brutalement de serpenter.
C'est parce qu'on n'a pas assez de longueur pour continuer, en fait. Il nous manque du matériel, on l'attend.
Arnaud Robini, ingénieur, le confirme. Il manque 500 mètres de canalisation qui doivent être livrés par les hélicoptères militaires.
On a besoin de beaucoup de matériel et c'est vrai que c'est très compliqué pour le faire venir. Donc c'est pas évident. Là, on est sur un peu de la médecine de guerre avec les tuyaux. C'est du système D. Hein.
Les tuyaux sont espérés ici dans la matinée. L'eau courante devrait être rétablie à l'hôpital au mieux dans l'après-midi. Pour les particuliers, il faudra sans doute encore patienter et continuer d'utiliser les citernes placées dans les rues pour se ravitailler. Tante Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Elle aura passé près de 4 ans comme otage. Voilà Sophie Petronin libérée. L'annonce pressentie ces derniers jours a été faite hier soir. La Française qui était retenue au Mali est arrivée à Bamako. Elle sera en France aujourd'hui accueillie par Emmanuel Macron. Elle dit vouloir ensuite retourner au Mali pour s'assurer que l'organisation d'aide aux enfants qu'elle dirigeait avant d'être enlevée continue à fonctionner convenablement. Éric Dupond-Moretti est-il en conflit d'intérêts au ministère de la Justice? Les magistrats d'une centaine de tribunaux le clament haut et fort depuis plusieurs jours.
Hier, on a appris que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a demandé des précisions au garde des Sceaux. Et dans le même temps, une deuxième plainte contre lui vient d'être déposée devant la Cour de justice de la République, Guillaume Mieux.
Effectivement, après celle d'un militant ancien élu de Grenoble, c'est au tour de l'association anticorruption Anticor d'attaquer le ministre de la Justice pour prise illégale d'intérêt. À propos de l'enquête administrative qu'il a lancée contre 3 magistrats du parquet national financier. Car même si Éric Dupond-Moretti a retiré la plainte qu'il avait déposée avant d'être ministre, il est en position de conflit d'intérêts, estime l'avocat d'Anticor, Jérôme Carsenti.
Même un lien d'amitié, un lien moral est un intérêt. Et là, en l'espèce, c'est un intérêt pour lui direct, puisqu'il vient poursuivre une enquête qui a été d'une certaine manière classée sans suite. Et lui vient la poursuivre parce que lui, il a un intérêt direct, puisque c'est contre lui que les services d'enquête du parquet national financier avaient enquêté. Il n'aurait même pas dû recevoir le rapport. C'est-à-dire que là, il n'a pas compris qui il devenait.
C'est la commission des requêtes de la Cour de justice de la République qui donnera suite ou non à ces plaintes déposées contre un ministre esseulé qui s'est mis à dos en quelques semaines la grande majorité des magistrats.
Guillaume Biat du service police-justice d'Europe 1. Le tennis à Roland-Garros place aujourd'hui aux demi-finales messieurs avec notamment Raphaël Nadal face à l'Argentin Diego Schwartzmann. Et pour une fois, Simon Rubin, Nadal pourrait être mis en difficulté.
Quand Nadal joue à Roland-Garros, il part toujours large favori. Mais cet après-midi, face à l'Argentin Diego Schwartzmann, l'équilibre des forces semble plus équitablement réparti. Et pour une raison simple, le 19 septembre dernier, juste avant Roland-Garros, Schwartzmann avait battu Nadal en quart de finale du tournoi de Rome. Une défaite que l'Espagnol n'a pas digérée.
Je ne vais pas vous mentir, il part avec un léger avantage, raconte Nadal, puisqu'il m'a battu à Rome. L'Espagnol, pas très à l'aise, ajoute « Je ne peux pas effacer cette défaite, c'est la réalité. À moi de trouver cette fois la meilleure manière de le battre dans un tournoi si spécial pour moi. » Nadal se méfie d'autant que le froid, l'humidité ambiante, cette terre battue lourde conviennent mieux au style de jeu de son adversaire argentin. De là à voir l'Espagnol tomber, peut-être pas, mais cet après-midi, Nadal pourrait enfin perdre un set dans le tournoi. C'est déjà ça.
Simon Rubin pour Europe 1.
Ouais, Nadal, la statue a déboulonné. C'est la une de l'équipe ce matin. C'était le journal de François Geffrier. Il est 6h37.
Europe 1.
Et j'accueille l'invité du 5-7. Bonjour Nicolas Giraud. Nicolas Giraud sera avec nous dans quelques secondes sur Europe 1. Il est le porte-parole national de la Confédération Paysanne. On parle de ces nouvelles restrictions qui vont limiter l'utilisation du glyphosate dans un certain nombre de cultures. A tout de suite sur Europe 1, il est 6h38.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 et l'invité du 5-7 est avec nous. Bonjour Nicolas Giraud.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la Confédération Paysanne. L'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, avance donc d'un pas de plus vers la fin du glyphosate, ce pesticide qui fait beaucoup débat, qui est classé par certains organismes cancérogènes. En tout cas, ce sont des nouvelles limitations qui sont ordonnées, des restrictions qui vont s'appliquer dans les 6 mois qui viennent. Elles vont concerner la viticulture, les arbres fruitiers ou encore la culture des céréales. La principale conclusion, Nicolas Giraud, c'est que dans ces situations, il y a bien des alternatives non chimiques.
Ben oui, la principale conclusion, c'est de dire que sur ces cultures, en tout cas en partie, il y a des alternatives qui existent. Donc, enfin, pour nous, à un moment donné, c'est le minimum que l'ANSES se positionne de telle façon, parce que c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années dans plusieurs filières, dans pas mal de productions et chez pas mal de paysans, où les alternatives sont déjà mises en place, sont déjà pertinentes et sont déjà vivables pour les paysannes et les paysans.
Ouais, alors, on va donner quelques exemples. Il s'agit notamment de désherber de façon mécanique, en gros en passant le tracteur, hein, entre les pieds de vigne ou entre les arbres fruitiers, ou de labourer la terre entre deux cycles pour les champs de céréales. Quand on lit ça, on se dit un peu, en fait, tout simplement, il suffisait de passer le tracteur.
Ben, de toute façon, oui, c'est des choses que les paysans faisaient déjà bien avant l'invention du glyphosate, et c'est des choses qui étaient pertinentes, qui permettaient d'aérer le sol, de lutter contre l'invasion des mauvaises herbes, mais de préserver la culture principale du sol. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on est en train de découvrir ou d'inventer, c'est juste réinventer ce qui pouvait exister, redonner du sens à tout ça. Et nous, à la Confédération Paysanne, on y voit quand même une sacrée opportunité pour plusieurs raisons. Une opportunité en termes de sens pour les paysans, de retrouver de l'agronomie, de la technicité et retrouver du sens à leur travail plutôt que de passer le pulvé sur des dizaines ou des centaines d'hectares sans forcément trop réfléchir. Et ben c'est justement avoir une recherche agronomique, une recherche technique pour savoir quand travailler le sol, comment travailler le sol, quoi semer entre deux cultures pour préserver la culture suivante. Et tout ça, c'est des choses intéressantes, et c'est ce qui fait le cœur du métier de paysan.
Pourquoi c'est si compliqué alors? Ça va coûter plus cher aux agriculteurs de produire de cette façon-là?
Ben, bien sûr, et c'est là où c'est compliqué, et c'est là où j'allais dire l'avis de l'ANSES est quelque part un peu tronqué dès le début, parce que il nous explique qu'il peut y avoir certaines restrictions, mais il y aura certaines choses qui vont être impossibles à faire, parce que de fait pour eux il n'y a pas d'alternative sans modification substantielle des pratiques, et de fait il va falloir modifier substantiellement les pratiques parce qu'il va falloir passer plus de temps, il va falloir passer plus d'outils, retrouver de la technique, et tout ça, de fait, ça demande de la main d'œuvre, ça demande des financements, ça demande un accompagnement.
Est-ce que c'est tenable pour les agriculteurs?
Ben c'est tenable pour les agriculteurs s'il y a des décisions politiques qui vont dans ce sens-là également. C'est-à-dire que ça se fera pas dans l'état actuel des choses. Ça se fera si, au travers du plan de relance ou de la politique agricole commune qui est en train de se discuter, on prend des orientations pour protéger les paysannes et les paysans, les protéger en fait de la course au volume, de la course au toujours plus, de la course au toujours plus grand. Dans l'avis de l'ANSES est noté très clairement le fait que sur des surfaces en céréales, par exemple, les fermes de moins de 150 hectares utilisaient sur 14% de leur surface le glyphosate, alors que les fermes de plus de 350 l'utilisaient sur plus de 40%. Donc ça montre bien que la concentration des terres, que l'agrandissement des fermes pousse à la spécialisation des cultures, pousse à la simplification des implantations culturales
et à l'utilisation de ces pesticides. Ouais. Alors, l'ANSES a défini de nouveaux plafonds dans cet avis qui va donc être contraignant dans les 6 mois qui viennent. Pour la viticulture, ça va permettre de réduire de 80% l'usage du glyphosate, pour les arbres fruitiers et pour les céréales, de 60%. C'est quand même des avancées conséquentes. Là, ça avance.
Oui, ça avance, sauf que si on prend l'exemple de la vigne et de l'arboriculture, la restriction va être faite dans l'interrang, donc ça veut dire entre les rangs de vignes ou entre les rangs d'arbres fruitiers, sauf que dans la plupart des vignobles ou dans la plupart des fruitiers, ces pratiques-là étaient déjà existantes. C'est-à-dire qu'ils partent de pratiques pour eux qui n'ont pas évolué, alors qu'elles ont déjà évolué depuis longtemps. Si on prend l'exemple du vignoble, moi je suis dans le Jura, beaucoup de vignerons du Jura sont déjà dans des pratiques dans l'interrang qui sont des pratiques de substitution au glyphosate avec un enherbement maîtrisé.
Certains ont déjà franchi la marche, et l'objectif affiché par le gouvernement, c'est de réduire de 50% l'usage du glyphosate à partir de l'année prochaine. Merci Nicolas Giraud d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1, l'invité du 5-7, porte-parole de la Confédération Paysanne. Bonne journée.
Europe 1. Sébastien Krebs.
6h48 sur Europe 1, elle a passé près de 4 ans aux mains des djihadistes. La dernière otage française, Sophie Petronin, est libre. Vous entendrez ses retrouvailles avec son fils dès l'ouverture du journal de 7h. 18 000 nouveaux cas de contamination au Covid ces dernières 24 heures. Les villes de Lille, Grenoble, Saint-Etienne et Lyon passent en alerte maximale. Et puis Donald Trump pourrait reprendre ses activités publiques et sa campagne dès demain. Il envisage un meeting en Floride. L'innovation du jour. Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien.
Une innovation à la fois écologique et spatiale. Ce matin, on a peut-être trouvé une solution pour limiter les débris spatiaux qui s'accumulent à la fois dans l'espace mais aussi dans l'océan. On va les utiliser comme carburant pour propulser la fusée.
Oui, c'est ce qu'on appelle des fusées autophages, des fusées qui vont brûler leur propre propulseur pour pouvoir créer de la poussée et pouvoir avancer. Si vous voulez une comparaison, c'est le même principe qu'une bougie qui va brûler sa propre structure pour pouvoir éclairer. Et l'avantage, c'est qu'à la fin, on ne laisse aucun déchet derrière soi. Vous savez certainement qu'une fusée est composée de plusieurs étages qui sont remplis de carburant et qui se détachent au fur et à mesure une fois qu'ils sont vides. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, ces déchets ? Eh bien, ils retombent dans l'océan. Ils s'accumulent en orbite, et avec la multiplication des lancements de satellites, eh bien ça commence à poser problème aujourd'hui.
C'est pour ça qu'il existe maintenant des fusées réutilisables dont le lanceur revient sur Terre.
Oui, c'est ce que proposent les Américains de SpaceX. Eh bien, les Écossais de l'Université de Glasgow pensent avoir trouvé une alternative encore moins chère avec ces fusées autophages. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à la place des moteurs très complexes qu'on a aujourd'hui, on utiliserait un simple tube rempli de carburant solide qu'il suffirait d'allumer pour faire décoller la fusée. Et ensuite, le tube va se dissoudre de bas en haut au fur et à mesure de la montée en orbite. Alors évidemment, là, je schématise énormément, mais ils ont déjà montré que c'était possible avec un prototype en taille réduite. Et un nouvel essai est prévu l'année prochaine avec cette fois une taille réelle. Donc les Américains de SpaceX pourraient bientôt avoir une concurrence européenne moins chère et qui ne laisse plus aucun débris derrière elle.
Européenne, c'est encore plus intéressant. On retient le principe de la bougie pour partir dans l'espace. C'est assez fascinant. C'est l'innovation du jour avec Anissé Mbida. Merci. Il est 7h10 et nous ouvrons à présent votre revue de presse internationale. D'abord aux États-Unis. Bonjour Xavier Yvon.
Hello Sébastien, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui fait l'actualité à New York ?
Eh bien, c'est le complot déjoué d'une milice d'extrême droite dans le Michigan qui inquiète la presse. Le New York Times liste les objectifs : envahir le Parlement local, enlever la gouverneure, déclencher une guerre civile, le tout juste avant l'élection présidentielle. Achat d'armes, opération de reconnaissance, la conspiration était bien avancée, mais infiltrée par le FBI qui a arrêté 13 personnes, raconte USA Today. Le Wall Street Journal rappelle que la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, est une cible régulière de la droite et de Donald Trump, qui lui reproche notamment les restrictions liées à la pandémie. En avril dernier, des groupes armés avaient manifesté devant le Parlement du Michigan et le président avait tweeté son soutien avec ces mots « Libérer le Michigan ». Réaction de la gouverneure visée, rapportée par le Washington Post, Donald Trump est complice parce qu'il refuse de dénoncer ces groupes d'extrême droite haineux. Et le journal de la capitale rappelle que les forces de l'ordre se préparent à d'éventuelles violences politiques d'ici l'élection le 3 novembre.
Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 à New York. On reste en Amérique du Nord, on va passer la frontière pour aller au Canada. Bonjour Alexandre Lepoutre.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui occupe les journaux à Montréal ?
Eh bien, c'est la tenue vestimentaire à l'école. Mais ici, c'est parce que des garçons de nombreux établissements ont décidé de porter la jupe pour protester contre le sexisme. Des garçons en jupe pour appuyer les filles, titre le journal La Presse. Le quotidien s'intéresse en fait à ce tout nouveau mouvement devenu viral sur les réseaux sociaux. Un sympathique geste d'éclat, écrit le Courrier du Sud, qui explique que les revendications sont nombreuses. Pour les uns, il s'agit de lutter contre le harcèlement dont sont victimes les filles et les femmes. Pour d'autres, il s'agit de dénoncer le code vestimentaire et l'uniforme toujours imposé dans certaines écoles et jugé sexiste. Tous veulent en tout cas envoyer un message de tolérance, écrit le journal La Presse, message qui semble avoir été entendu. Selon le média CBC, certaines écoles québécoises se disent désormais ouvertes à revoir leur règlement.
Alexandre Lepoutre, Canada, et nous allons terminer ce tour du monde ce matin à Alger. Bonjour Nourchaïn.
Bonjour Sébastien.
De quoi on parle en Algérie ?
Eh bien, dans la presse, on revient sur ces arrestations de manifestants dans plusieurs villes algériennes. En tout, une quarantaine de manifestants dont la garde à vue a été prolongée, indique le quotidien Liberté. Leur tort, avoir tenté de marcher pour dénoncer la répression qui s'est abattue sur les Algériens, particulièrement depuis l'instauration du confinement. El-Watan rappelle que les arrestations et les peines d'emprisonnement prononcées à l'encontre de journalistes et d'activistes du Hirak s'enchaînent ces derniers mois. La dernière condamnation en date, celle d'un militant du Hirak qui a écopé de 10 ans de prison pour incitation à l'athéisme. À ce propos, le site algérien rapporte que les avocats du prévenu estiment qu'il s'agit là du procès de la liberté de conscience et d'opinion. D'où ce titre du site Algérie 360. La justice est instrumentalisée avec acharnement pour éviter un retour du Hirak.
Nourchaïn, en Algérie, votre fenêtre sur le monde, c'est votre revue de presse internationale. Tous les matins sur Europe 1 à 7h10.
Europe 1.
La météo de Laurent Cabrol, le journal d'Hélène Zelani, c'est le 7-9 de Mathieu Béliard qui démarre dans un instant. Il est 6h54, à tout de suite.